9h, 11h, le club de l'été. Lise Pressac.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le club de l'été. C'est un club dans lequel on aime parler de culture et de gastronomie et un club dans lequel on aime partager nos coups de cœur pour des pièces de théâtre, des expositions, des séries et pour des coins de France aussi. Pas besoin de carte de membre, vous le savez, le club est ouvert à tous ceux qui ont simplement une bonne dose de curiosité. Nous avons 2 heures pour partager nos coups de cœur culturels et culinaires. À mes côtés, Sophie Massieu, experte tourisme et culture, et Sophie Muntz, experte gastronomie. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour les amis.
Bonjour Lise, bonjour à tous. J'adore quand vous accentuez le mot experte.
Moi j'adore, voilà, dire
je
experte.
Je me sens tellement plus intelligente d'un coup grâce à
mais
vous.
Mais évidemment, c'est l'avant-dernière.
Oh, calmez-vous, calmez-vous.
C'est l'avant-dernière déjà, les deux Sophie.
Et oui, mais demain on pleure. Mais aujourd'hui,
demain on voit les bulles.
On espère. En tout cas, d'ici là, vous nous emmenez ce matin dans les Côtes d'Armor, Sophie Massieu.
Oh, bah oui, c'est pas de ma faute. Hein.
Oui,
c'est grâce à notre invité.
Oui, ça c'est vrai. C'est
un heureux hasard et je ne vous dirai pas ce qu'on va faire. Évidemment.
Non, vous ne le dites jamais.
Je vous garde en suspense. La deuxième heure. Nanana.
Sophie Muntz, vous dites plus de choses. Qu'est-ce qu'on mange en Bretagne?
Alors, galette ou crêpe? Crêpe ou galette?
Les deux, l'une après l'autre.
L'une après l'autre.
L'une après l'autre. Les petits conseils pour la réussir. Et puis, un mythe de la cuisine italienne.
Très bien.
La sauce al pesto.
Ah si, épisode 4 de notre saga consacrée aux pâtes.
Et ça cartonne, hein?
Mais évidemment que ça cartonne. Bah oui, non mais... Les fans n'en peuvent plus. Nous aurons
il y a
deux
hordes qui vous attendent à la sortie.
Oui, on a les fans.
Vous saurez tout en fin d'émission sur l'épisode 4. Nous aurons 2 heures pour parler de notre patrimoine culturel et gastronomique. Soyez les bienvenus dans ce club de l'été. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 11h.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac.
Notre invité est comédien, vous l'avez peut-être déjà vu à la télévision sous le nom de René Lepic, mais c'est aussi et surtout un homme de cinéma et de théâtre, portrait sonore.
I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah.
Ah bah j'avais oublié que c'était une soirée déguisée.
J'avais oublié que t'étais si drôle.
Ah, tu peux mettre un torchon sur le bras, tu pourrais faire le service. Elle est où la grosse?
À la cuisine.
Elle nous a pas refait son buffet marocain là. Non.
Dis, quand reviendras-tu? Dis. Au moins, le sais-tu?
Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas si, fais pas ça, allez.
Bonjour Guillaume de Tonquédec.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous recevoir dans ce club de l'été sur Europe 1. Vous êtes comédien. Vous serez à l'affiche de 7 ans de réflexion au Théâtre des Bouffes Parisiens à partir du 17 septembre et jusqu'au 5 janvier 2020. Vous serez également au Festival d'Angoulême pour 2 films ce week-end et demain, Place des Victoires de Johan Guillouzouic et L'Esprit de Famille de Éric Besnard. J'ai pas écorché leur nom.
Bénard.
Voilà, Bénard. Nous allons évidemment.
Guillouzouic, bravo. Parce
oui,
que c'est
ouais, il y a toujours des pièges.
Finalement, j'ai buté sur le plus simple. Nous allons évidemment parler de tout cela au cours de l'émission. Mais pour commencer, pouvez-vous nous dire ce que vous avez entendu dans ce portrait sonore? Je vous ai vu très attentif pour essayer de tout retenir.
J'essaie de me souvenir de ma longue carrière. J'ai reconnu évidemment l'ouverture du film Le Prénom. Enfin, c'est l'arrivée du personnage de Patrick Bruel, où je jouais Claude Gatignol, dit La Prune, ce surnom qu'on lui donne parce que tout le monde est persuadé qu'il est homosexuel, donc on l'a surnommé La Prune. Et voilà, c'est un personnage extraordinaire. C'était un très très beau souvenir, parce qu'on a d'abord joué au théâtre. Puis c'est devenu un film. Ils nous ont gardé pour faire le film, parce que souvent, quand il y a un succès au théâtre, on vire tous les acteurs du théâtre. Et on garde les comédiens. On trouve des comédiens ailleurs de cinéma. Quoi. Là, ils nous ont gardés. Et le film a très bien marché, qui a en plus été nommé au César, ce qui est rare pour une comédie en France. Et j'ai eu la chance, on a eu la chance avec Valérie Benguigui de décrocher les deux Césars des meilleurs second rôles féminin pour elle et masculin pour moi. Donc c'est un souvenir vraiment extraordinaire. Quoi.
Qu'est-ce que ça change? Le téléphone sonne plus souvent après ça? Après un César ou...
Oui, incontestablement. En tout cas, j'ai des copains qui m'ont dit, tu verras après, pendant 2 ans, on ne demande plus parce qu'on pense que t'es trop cher.
Et c'est le cas?
Non, c'est arrivé à d'autres apparemment. Et moi, franchement, ça a été un coup de baguette magique. Ça et concomitamment, si j'ose dire, le succès de la série Fais pas ci, fais pas ça. Oui. Quoi. Les deux choses sont arrivées à peu près en même temps. Et c'est ça qui m'a ouvert les portes de la popularité, en fait. Donc c'est une grande chance. Et j'ai évidemment reconnu Dutron, Fais pas ci, fais pas ça, le générique.
Oui, bon, ça, j'allais presque même pas vous le demander. Est-ce que vous avez reconnu les deux autres génériques un petit peu plus anciens qu'on a passés ?
Est-ce qu'il y en a un qui serait Les Cordiers ?
C'est ça, Commissaire
Cordier. C'est Commissaire Cordier.
C'est Commissaire Cordier, d'ailleurs. C'est pas Cordier jugé flic,
voilà,
c'est Commissaire Cordier.
Cordier jugé flic avec Bruno Madinier, évidemment Pierre Mondi. Et puis la série a changé de physionomie. Bruno est parti et ils ont inventé une nouvelle formule où le commissaire est vieillissant, il est mis un peu au rancard, comme ça il inaugure des salles, il remet des décorations, enfin une vie qui ne l'intéresse pas vraiment, et puis ils mettent à sa place un petit jeune que je jouais, le commandant Sorensen, qui est issu de la police scientifique. Et évidemment, le commissaire vieillissant ne peut pas s'empêcher de revenir mettre son nez dans les enquêtes. Et puis, c'était bien sûr Pierre qui était le leader de la série. Donc, moi, j'étais absolument inconnu. Et ça permettait à Pierre de continuer la série et à moi de découvrir cet homme que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui m'a beaucoup appris. Ne serait-ce qu'en le regardant travailler, le respect qu'il avait pour chaque corps de métier sur un plateau, la façon dont il recevait chaque acteur, même s'ils n'avaient qu'une journée, et sa connaissance extraordinaire de la mise en scène. C'est un très grand metteur en scène de théâtre. Il a beaucoup, on l'oublie un peu, alors que c'est un type vraiment formidable. Et moi, je lui rends hommage dès que je peux, parce que j'ai vraiment beaucoup appris à son contact.
La série policière aussi est une bonne école. On a entendu Navarro aussi, vous avez aussi joué dans Navarro.
J'ai joué dans un épisode.
Oui, dans un épisode. Saison 16, épisode 3, pour les fans.
Bravo.
Qui veulent vraiment vous voir.
Et ça s'appelait comment, Fascination. Je jouais une espèce de
tueur en 2004.
En série avec des gants MAPA. Je me souviens, c'était assez. L'épisode était assez dément. Ouais. C'était assez marrant à faire avec Marie-Christina, donc une super comédienne que j'ai rencontrée à cette occasion. Voilà.
Il y a également, on a entendu Depardieu chanter Barbara. Ah, pour vous, c'est incroyable. Et Gérard Depardieu est l'un des acteurs les plus grands au monde, pas forcément
en France.
Moi, j'ai
eu la chance de travailler trois fois avec lui de façon assez courte. C'était pas des grands rôles, je veux dire, que je défendais face à lui. Mais pareil, c'est des acteurs. Comment dire, vous pouvez prendre des années de cours de théâtre. Quand vous travaillez avec un type comme ça, vous apprenez tellement de choses en le regardant jouer. En essayant de l'imiter, c'est impossible, mais de regarder comment il fait. Oui, il m'a dit deux, trois trucs, parce qu'on s'est toujours très bien entendu. Il m'a parlé de l'instinct, il m'a dit « N'oublie jamais ton instinct, tout part de là ». Il se tapait la cage thoraxique, enfin un peu en haut, le centre des émotions, et il dit « Tout part de là, il faut t'occuper que de ça, ne pense qu'à ça ». C'est assez, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas tant que ça, parce qu'on est plutôt des cérébraux, les acteurs en France, on réfléchit beaucoup. Mais lui, il joue…
Avec les tripes.
Avec les tripes, c'est pas seulement un grand acteur français, pour moi, vous avez raison, c'est un des meilleurs acteurs du monde. C'est-à-dire que quand il est dedans, quand il a choisi d'être dedans, il est assez inégalable. Et quand il chante Barbara, si vous avez la chance de pouvoir voir ça, c'est une expérience unique. C'est un des plus beaux trucs que j'ai vu de ma vie, très honnêtement. On part ailleurs, il nous embarque, il est en état de don absolu, et il nous embarque ailleurs, il n'y a pas de mots.
Oui, et puis on sent l'amour qui lui porte à Barbara. Ça vient des tripes, quoi. Voilà, on a encore l'impression qu'il y a cette émotion qui lie les deux personnages, Barbara et Depardieu.
On a l'impression qu'elle est là.
Oui, c'est
à la fin, elle lui dit je t'embrasse, je t'aime, etc. Ouais. Direct,
on
pleure.
C'est dingue.
C'est une expérience unique. Ouais. C'est au-delà. Voilà, on devrait toujours jouer comme ça. Il est en état de don absolu. Il donne tout à elle et au public, les Happy Few qui ont pu avoir une place. Allez le voir.
Vous pourrez le voir dans le film de Guillaume Nicloux, à l'assaut, avec Michel Houellebecq, où il est aussi incroyable. On a entendu Ray Charles et Grease, parce que je crois que ce sont des musiques que vous écoutez, alors selon l'heure de la journée aussi.
Voilà.
Ça, c'est quoi? C'est après la pièce? C'est avant?
Grease,
c'est tout le temps.
Moi, je suis un vieux, vous savez. Lise, on appelait ça des booms à mon époque.
Mais j'ai connu les booms, Guillaume de Tonquédec.
C'est quoi cette histoire?
Vous êtes beaucoup plus jeune que moi.
Et je regardais Grease chez mes grands-parents, donc bon.
Bah ouais, non mais j'adore, c'est la musique de la fête, quoi. Tout le disco, toute cette époque-là, c'est quand même... Mais je préfère, moi, c'est cette musique-là, c'est peut-être mon côté un peu vieillissant. Non, mais la musique où on pouvait aussi danser à deux, le rock, etc., maintenant, c'est plus possible. Les quarts d'heure américains, je lance un appel, refais les quarts d'heure américains, les slow et tout ça.
Bien, c'était
toutes
génial.
Ces soirées tellement emmerdantes qu'on a maintenant, les jeunes qui se bourrent la gueule jusqu'à 6h du matin, ça n'a aucun intérêt.
Mais
buvez
oui.
un peu moins, mettez de la bonne musique et amusez-vous.
Bah, voilà. Je vous propose de danser à deux, Guillaume de Tonquédec, sur Murder on the Dance Floor, Sophie Alix Vextor sur Europe 1.
Le club de l'été sur Europe 1.
9h, 11h.
Lise Pressac.
Il est 9h25, nous sommes toujours en direct sur Europe 1. C'est la suite du Club de l'été avec notre invité, le comédien Guillaume de Tonquédec. Vous n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Guillaume de Tonquédec, on pourra vous voir au théâtre à partir du 17 septembre dans 7 ans de réflexion. C'est au Théâtre des Bouffes parisiens. C'est l'histoire d'un pot de fleurs qui va bouleverser une vie, on peut le dire comme ça. Nous sommes à Manhattan, un soir d'été, sur un balcon. La voisine du dessus vient de faire tomber accidentellement son tomatier. C'est un pot en fonte qui pulvérise la chaise sur laquelle Richard Sherman était assis quelques secondes auparavant. Un incident qui aurait pu être fatal, mais qui finalement sera sans doute l'une des plus belles choses qui pouvait lui arriver. Alors on se rappelle du film du Billy Wilder en 55 qui a donné lieu à l'une des scènes les plus cultes du cinéma. On a tous l'image en tête, Marilyn dans sa robe blanche virevoltant au-dessus d'une bouche de métro. Film qui était l'adaptation d'une pièce de théâtre de George Axelrod. Comment est-ce qu'on s'attaque à un tel classique, Guillaume de Tonquédec ?
Bah d'abord, c'est une pièce de théâtre, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que Marilyn ne jouait pas, elle a joué le film, elle ne jouait pas au théâtre. Donc il faut bien sûr, quand les pièces sont des pièces fortes, drôles, où vraiment il se passe quelque chose d'important, il faut absolument les reprendre. C'est pas parce qu'un acteur mythique l'a joué, ou une actrice en l'occurrence, qu'il faudrait ne plus jamais jouer cette pièce. D'ailleurs, c'est la première fois qu'elle est créée en France, c'est la première fois qu'on va la jouer. Et la distinction est importante, c'est-à-dire qu'en effet, on va jouer la pièce.
Voilà, vous ne rejouez pas le film.
On ne rejoue pas le film parce que le film, Billy Wilder, qui a participé au scénario avec Axelrod, l'auteur de la pièce, s'est heurté à la censure américaine, le code Hays, où il a été obligé d'enlever tout simplement de grandes parties de la pièce. Notamment, on ne pouvait pas faire, on pouvait pas montrer certaines parties du corps, ni des baisers langoureux, on ne pouvait pas parler d'homosexualité, et on ne pouvait pas, bien sûr, faire l'apologie de l'adultère. Or, la pièce ne parle que d'adultère. Et dans la pièce, il consomme, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de faire la pièce.
Bah oui, évidemment.
Parce qu'Alice Dufour, ma partenaire, est assez magnifique, il faut la voir. Mais surtout, en dehors de ce trait d'esprit, n'est-ce pas, c'est pas du tout le même sujet. C'est-à-dire, c'est un homme fou amoureux de sa femme, ils ont un enfant. Tous les étés, il fait très chaud à Manhattan, donc il emmène sa femme et leur fils prendre le frais dans le Maine, etc. Il les rejoint le week-end. Et il est hors de question pour lui. Il a eu des tentations, mais il n'a jamais trompé sa femme en 7 ans. D'ailleurs, en anglais, c'est The 7-Year Itch. C'est la démangeaison de la 7e année. Donc, c'est assez joli. Nous, on a traduit ça par 7 ans de réflexion. Et donc, c'est tout d'un coup, il y a une sublime jeune femme qui s'installe dans l'appartement du dessus pour l'été. Donc, la question de la pièce, c'est uniquement j'y vais ou j'y vais pas. C'est juste ça, l'argument. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on voit ce personnage qui est pris comme une mouche dans une toile d'araignée qui se dit mais qu'est-ce que je fais, quoi ? Non, j'aime ma femme vraiment, mais est-ce qu'elle, après tout, elle m'aime autant qu'elle le dit ? Est-ce qu'elle n'aurait pas non plus, elle, un amant ? Il y a sa conscience qui l'interroge aussi. Il y a des personnages qui arrivent comme ça en cascade et c'est très, 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 très drôle. Et la jeune femme, elle est juste, c'est juste une jeune femme libre. C'est un portrait de femme assez extraordinaire pour les années 50 américaines. Et encore aujourd'hui, elle a juste envie de vivre sa vie. Et c'est pas du tout une séductrice non plus. Donc ça arrive à deux personnes, voilà, qui ne sont pas. Si c'était un coureur et que tous les étés il s'envoyait en l'air parce que sa femme n'est pas là, la pièce n'aurait aucun intérêt. Ce qui est très joli, c'est qu'il aime sa femme et que elle, cette jeune fille, elle a fait tomber ce pot de fleurs, donc elle accepte de venir boire un verre par politesse. Et puis il va se passer quelque chose. Et ils vont être transformé par cette nuit comme ça d'amour. C'est pas que l'histoire d'un soir, il va se passer et pour elle et pour lui des choses après, quoi. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces textes-là où il y a une profondeur et une résonance, même si d'abord on rit beaucoup.
C'est vrai, c'est une comédie avant tout. Vous êtes un homme de théâtre, vous auriez pu ne faire que ça d'ailleurs si le succès ne vous était pas tombé dessus avec la série Fais pas ci, fais pas ça. Qu'est-ce qu'il y a de si grisant ? Est-ce que c'est le retour direct du public ? Est-ce que c'est le fait de ne pas jouer la même pièce même si c'est la même tous les soirs puisque le public change ? C'est tout ça.
Il faut convaincre tous les soirs. C'est-à-dire, c'est pas parce que là une pièce, une représentation, c'est bien passé un soir. C'était le drame de Laurence Olivier, raconter une histoire dans ses mémoires assez jolie, immense acteur anglais. Donc, il avait fait lever une salle sur une réplique dans un Shakespeare. Et tous ses copains en coulisses ont dit mais c'est extraordinaire ce qui vient de se passer. Les gens ont applaudi en pleine pièce. Enfin, qu'est-ce que. Et lui, il était assez taciturne, curieusement. Il a dit oui, mais comment je vais faire demain? C'est très joli, quoi. C'est l'école de l'exigence. Une fois que le torchon est levé, comme on dit dans l'expression, une fois que le rideau est levé, il faut aller jusqu'au bout. Et il faut convaincre, il faut emmener les gens. On les sent très, très bien. On sent la salle respirer avec vous ou non, tousser si jamais ils s'embêtent, bouger, etc. C'est vraiment. Puis c'est un art de. Comment dire, c'est le partage, quoi, le théâtre. On est vraiment avec les gens. Ils peuvent vraiment partager. C'est-à-dire, s'ils ne sont pas contents, ils vous le font sentir. Mais s'ils sont contents, ils vous le font sentir aussi. C'est quelque chose d'unique. C'est encore l'un des rares endroits où on peut se retrouver. On ne connaissait pas son voisin et on a partagé quelque chose avec lui. On a été émus, on a ri ensemble. C'est un endroit fondamental, très important.
Et du coup, en tant qu'acteur, pardonnez-moi, est-ce que c'est plus ou moins facile au théâtre qu'au cinéma de jouer vraiment avec l'instinct dont vous parliez tout à l'heure ? Est-ce qu'on s'investit plus dans le théâtre ? Est-ce que c'est plus facile ? Est-ce que c'est plus impératif ?
Alors,
comme on est en prise directe avec le public ?
Quand Ça, c'est Peter Brook. J'étale toute ma culture ce matin.
C'était, non, c'est bien. Ce sont des belles références.
Il disait, Peter Brook, le travail au théâtre, au cinéma s'arrête là où il commence au théâtre. C'est-à-dire qu'il voulait dire qu'au théâtre, on a la chance de pouvoir répéter pendant plusieurs jours, plusieurs semaines pour ce qu'on a trouvé à la première répétition et qui était si bien. Il va falloir le reproduire tous les soirs. C'est ce que je vous ai expliqué, c'est le problème et l'intérêt du théâtre. Il faut être au moins aussi bien que la veille, quoi. Alors qu'au cinéma, une fois qu'on a trouvé qu'on a une bonne prise, on peut arrêter. On peut, voilà, on est allé au bout de l'émotion, de la comédie, on peut arrêter. Alors qu'au théâtre, il va falloir le refaire. Donc il faut apprendre à travailler pour être aussi bon le lendemain, quoi. Donc c'est, oui, c'est le travail de l'exigence et c'est très excitant de devoir se dire, voilà, dans deux minutes, le rideau se lève, on sent les gens, on les entend, puisque vous aimez la Bretagne. Moi, je compare ça au bruit des vagues, ce qu'on entend avant le rideau baisser. Et on va partir avec eux. Moi, je trouve que c'est une aventure exceptionnelle, quoi, d'aller au théâtre. Quoi. Le fait d'aller au théâtre, c'est un geste assez incroyable. J'invite tous les gens à le faire, surtout à aller plutôt voir cette en réflexion.
Oui, voilà, c'est ça.
La meilleure pièce de la rentrée.
Les bouffes parisiens à partir du 17 septembre. Dans un instant, Guillaume de Tonquédec, vous allez partager avec nous vos coups de cœur culturels. À tout de suite sur Europe 1.
On prend le temps, on se détend
avec le club de l'été sur Europe 1.
Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le club de l'été avec notre invité, le comédien Guillaume de Tonquédec. Ce matin, vous vouliez nous parler d'un film, Jusqu'à la garde.
Voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6e A1 au collège Théodore Monod de Saint-Dumont et il a dit « Mes parents sont séparés depuis un an, je vis maintenant ici avec maman et ma sœur. On va fêter les 18 ans de ma sœur à la salle des fêtes de Vial. » On habite tous là-bas chez papy et Nani, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Papy se met à crier quand il le voit et c'est pas bon pour sa santé. Quand il vient, je m'inquiète pour maman, parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça, c'est pas un père et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent.
Un film de Xavier Legrand sorti l'année dernière avec Léa Drucker, Denis Ménochet et Thomas Gioria. L'histoire d'un couple qui divorce avec une mère qui fait tout pour protéger son fils d'un père qu'elle accuse de violence. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film, Guillaume de Tonquédec ?
Tout. bon alors c'est pas une comédie là pour le coup.
Non là mais, on l'aura bien compris.
Ce qui m'a plu c'est la véracité, la façon dont Xavier Legrand a dirigé ses acteurs. Je sais qu'ils ont beaucoup travaillé un peu comme au théâtre. D'ailleurs ils ont fait des répétitions avant, des lectures. Je sais aussi que pour Denis Ménochet, l'acteur qui est un type, je le connais très peu dans la vie, mais qui est plutôt très sympa. C'était très difficile de rentrer dans la peau de ce père violent. Pour lui, les scènes sont assez exceptionnelles et qu'avec Léa et le jeune garçon, ils sont tous les trois bouleversants. Enfin, c'est un film poignant.
Oui, c'est magnifique.
Et moi qui connais Léa depuis longtemps, elle m'a une fois de plus bluffé. J'étais tellement heureux pour elle qu'elle ait cette distinction, ce fameux César, qui est un sésame aussi pour nous tous hein, quand ça nous tombe dessus. Que c'est tombé à un bon moment aussi dans sa carrière. J'étais vraiment. On était en train de promouvoir le film Roxane, où on joue un couple aussi d'agriculteurs à ce moment-là. Et j'étais très ému qu'elle l'ait parce que elle fait une prestation exceptionnelle. Quoi.
Ouais, voilà. C'est vrai. Et vous aimeriez jouer un rôle aussi grave que celui qu'on a proposé à Denis Ménochet ?
Oui, ça me plairait. Ouais. D'ailleurs, on commence à jouer des choses plus difficiles, entre guillemets. Et ça me plaît parce que le travail de l'acteur, c'est de travailler sur le mystère, sur ce qu'on ne dit pas. C'est-à-dire qu'on fait tous des cauchemars la nuit. On est tous obligés d'avoir une image sociale dans la rue, chez nos commerçants, ou même entre amis, ou même au travail, même à Europe 1.
Surtout à Europe 1.
Non, pas surtout à Europe 1, mais vous voyez ce que je veux dire. On est obligé d'avoir une image sociale.
Évidemment.
Et pour autant, on est plus trouble qu'on ne veut bien le montrer, qu'on ne veut bien le dire. Le travail de l'acteur, c'est d'aller travailler sur cette matière-là. Et elle m'intéresse depuis toujours, surtout en tant qu'acteur de théâtre. Et donc j'ai envie d'aller vers ça à l'image, ouais. Mais ça m'arrive là. Le film Place des Victoires, voilà, c'est un personnage très
torturé
que Renaud Lepic. En apparence que Renaud Lepic était torturé aussi.
Bah oui, évidemment. Guillaume de Tonquédec au Club de l'été. Nous avons cette chance d'avoir des auditeurs de qualité qui, comme nous, aiment partager leur coup de cœur. Et ce matin, nous sommes en ligne avec Squirrelito. Bonjour Squirrelito.
Bonjour Lise, bonjour à tous.
Et merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes une habituée du club, membre VIP à vie, on peut le dire. Vous tenez le blog littéraire Le Domaine de Squirrelito. Et aujourd'hui, vous avez envie de nous parler de L'appartement du dessous. Ça tombe vraiment bien avec notre sujet du jour, cet temps de réflexion. C'est signé Florence Herlemann, publié chez Albin Michel. C'est un récit épistolaire entre une jeune femme et une centenaire, c'est ça ?
C'est tout à fait ça. Hectorine, la centenaire, écrit à sa nouvelle voisine, Sarah, une étudiante, dont l'appartement se situe juste au-dessus du sien. Alors, elle a connu la précédente locataire, mais ce n'était pas l'entente cordiale du tout. Alors, c'est une dame âgée aussi, mais elle ne s'entendait pas. Quoi, voilà.
D'accord, là ça change.
Là ça change complètement. Alors d'autres lettres d'Hectorine suivent, mais il va falloir être patient avant de lire une réponse de la jeune femme. Parce que cette dernière, forcément, elle est un peu en colère, elle est surprise par ses lettres à répétition. Elle lui fait d'ailleurs savoir, avec délicatesse, parce qu'elle n'ose pas brusquer cette vieille dame, mais quand même, elle est un peu, voilà, elle est un peu surprise. Mais après, les doutes s'effacent, elle refuse d'y voir un harcèlement, et les échanges vont devenir récurrents. Mais jamais elles vont se rencontrer. Alors peu à peu, on découvre ce que fut la vie d'Hectorine, un destin avec des failles, des blessures, son arrivée à Paris depuis l'Allemagne, parce qu'elle a vécu l'enfer d'un camp de concentration. Mais aucun apitoiement. Elle laisse les effluves de sa vie en y mettant le parfum des arts, la peinture, la musique. Et ainsi, les mots ne sont plus écrits. Ils rythment une partition où s'inscrivent des suites, alternant les hauts et les bas, comme un escalier de la vie. Alors, que d'élégance, mais que d'élégance dans ces échanges. Deux générations distinctes, complètement, mais des marches en commun sur le terrain de l'intergénérationnel. Alors le lecteur se retrouve en compagnie de deux êtres qui lui apprennent que derrière chaque mur, eh bien, il y a des histoires, des secrets, des joies, des peines et des espoirs, et que nous devons respecter les craquements du temps qui passe. Il nous montre l'existence qui doit se crotter. Parce que la vie est une gourmandise.
Oh là là, vous parlez tellement toujours divinement bien des livres, Squirrelito, c'est un plaisir de vous entendre. Je suis désolée, on n'aura pas le temps de lire un extrait, mais il faut vraiment aller lire ce livre.
Il est vraiment très très beau.
Oui, c'est Florence donc, Herleman, c'est publié chez Albin Michel, L'appartement du dessous. Je sais, Guillaume de Tonquédec, que vous êtes aussi un grand lecteur, que vous êtes de ceux qui pensent qu'un texte peut changer une vie.
Oui. Oui, moi, c'est parce que ça a été mon cas. Parce que là, c'est très joli dans la description que vous avez faite, c'est que les deux personnages ne se rencontrent jamais, en tout cas au début. Et je trouve ça très joli parce que ça fait appel à l'imaginaire. On peut mettre ce qu'on veut dessus. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à apprendre à lire et à écrire. C'était une torture pour moi, le CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Et même, j'ai tout réappris en classe de 3e quand j'ai décidé de devenir comédien, parce que je me suis dit, il faudra que je lise en public. Donc je ne peux pas rester comme ça avec cette infirmité, vraiment. Et en fait, c'est l'imaginaire des auteurs qui m'a sauvé, parce que c'est ça qui m'a donné envie d'apprendre à lire correctement, quoi. Et c'est vrai que Le désert des Tartares, par exemple, de Dino Buzzati, qui peut paraître un livre un peu difficile, où un jeune militaire qui rêve de faire carrière va rêver toute sa vie de la carrière qu'il aurait pu faire, ne va jamais la faire, et au bord de la mort, il va enfin pouvoir livrer une grande bataille qu'il ne livrera jamais parce qu'il va mourir avant. C'est un livre sur le destin, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, quoi. Et comme moi, j'étais en pleine interrogation sur mon envie de devenir comédien, je me suis dit, Buzzati, il a écrit pour moi, quoi. Il me prend par l'épaule, il me dit, mais vas-y, essaye, quoi. Essaye. Et donc, ce livre a changé ma vie, par exemple.
Ce sont les meilleurs des livres, ceux qu'on croit avoir été écrits pour nous. Merci infiniment, Squirrelito, d'avoir partagé
Merci
avec
beaucoup,
nous vos
coups de cœur. Vous attirer, je suis très contente que Guillaume ait fait ça. C'est vraiment l'un de mes auteurs favoris.
Je lirai votre livre, ouais, ça a l'air super.
Ouais, je rappelle que vous tenez le blog Le Domaine de Squirrelito. À très bientôt, j'espère, et merci d'avoir été avec nous tout au long de cet été. Dans un instant, on va continuer de partager nos coups de cœur, cette fois sur écran. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Le club de l'été.
Deux heures.
Lise Pressac.
Et en plus, on me l'a dit qu'il y avait mon nom à la fin. Pardon, Loïc. Deux heures de direct tous les matins, de 9h à 11h, avec mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Muntz. C'est le principe du club de l'été sur Europe 1. Et ce matin, c'est le comédien Guillaume de Tonquédec qui nous accompagne. Alors, quand on vous a demandé quelle était votre série préférée, vous nous avez répondu ça.
Ouais, ta musique est géniale.
Ah, vous m'avez fait plaisir. Alors, pour les plus jeunes auditeurs qui nous écoutent, c'est Ma sorcière bien-aimée, c'est l'histoire de Samantha, une sorcière qui tombe amoureuse d'un simple mortel qui travaille dans une agence de pub, Jean-Pierre, dans la version française. Et elle a cette faculté à lancer un sort juste en bougeant son nez. Voilà, avec cette petite musique-là. Pourquoi est-ce que cette série vous a marqué, Guillaume de Tonquédec?
C'est la série que je regardais quand j'étais enfant. Donc le pouvoir comme ça, encore une fois de l'imaginaire, cette femme qui a ce pouvoir, son mari qui ne le voit pas et qui va en subir les conséquences. J'aurais adoré jouer le rôle de Jean-Pierre, c'est un personnage super.
Ah oui, c'est vrai.
Et il y avait un pouvoir, je me disais, mais quelle chance elle a, cette femme, de pouvoir faire ça. Sa mère aussi, le personnage de sa mère, qui était un personnage assez truculent, qui débarque dans
c'était
le
couple. C'était Andorra, c'est ça.
Ouais. Parce que c'était drôle. Et donc, moi, ça me faisait rêver, tout simplement. Quoi. Alors maintenant, on est parti dans des trucs beaucoup plus dingues, mais pourquoi pas revenir. Toutes les bases de la bonne série sont dans Ma sorcière bien-aimée. Quoi. Le scénario, les comédiens, puis cette idée de fou, quoi, de cette magicienne, quoi, cette sorcière.
Vous regardez des séries plus récentes, quand même, Guillaume de Tonquédec, ou pas?
Oui. Bon, oui, quand même. j'avais adoré notamment Mad Men, qui est une série géniale sur le... le milieu de la pub, justement dans le Manhattan, les États-Unis des années 50, où tout le monde fume, boit, etc. Il y a des histoires pas possibles. Ce qui est génial en fait, dans la série, c'est qu'on peut décliner des personnages sur plusieurs saisons, voire plusieurs années, ce qui nous est arrivé avec Fais pas ci, fais pas ça. Et on peut, les scénaristes peuvent s'en donner à cœur joie. Et les acteurs aussi, c'est un domaine d'exploration exceptionnel. Et je comprends que le public en soit friand. Enfin, pour les acteurs et les scénaristes, c'est génial à faire, quoi.
Alors, de mon côté, je voulais vous conseiller une mini-série où il est aussi un peu question de magie. Elle sera diffusée sur Arte le 29 août à 20h55. Mais magie de la plateforme arte.tv. Elle est disponible dès aujourd'hui et jusqu'au 26 octobre. Il était une seconde fois. C'est son titre et réalisé par Guillaume Niclou avec Gaspard Ulliel et Freya Mavor. C'est l'histoire de Vincent qui reçoit un matin un paquet qui ne lui est pas destiné. Alors, à l'intérieur, il y a un cube en bois qui lui offre la possibilité de voyager dans le temps et de revenir à une époque où il était encore avec Louise, son amour perdu. Bonjour Gaspard Ulliel.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Alors, avant de vous donner la parole, on va écouter un extrait de « Il était une seconde fois ».
Il faut multiplier par 3 le temps que tu as passé avec la personne. En fait, c'est l'inverse. Un tiers du temps. En fait, si tu es sorti pendant 3 ans avec une fille, bah, tu vas en baver pendant un an.
T'as lu ça dans l'horoscope chinois ?
Il faut alors que tu comprennes que la Chine et le Vietnam, c'est pas du tout le même pays, mec. Louise, ça fait combien de temps, là ? 6 mois ?
4.
Ah bah on est bon, là, c'est bon. T'es largement sorti de la merde, hein ?
Ah ouais ? Et l'odeur ? Tu regardes combien de temps ?
Alors, on l'entend dans cet extrait, votre personnage, Vincent, a vraiment du mal à se remettre de ce chagrin d'amour et ce cube est assez inespéré. Alors, je l'ai dit, c'est une mini-série en 4 épisodes de 52 minutes. Qu'est-ce que ça implique pour vous, Gaspard Ulliel, en tant qu'acteur, de travailler un personnage sur une mini-série, sur cette longueur-là par rapport à un long métrage ?
Bon, comme vous le dites, effectivement, c'est une mini-série, donc je dirais que c'est un petit avant-goût de ce que ça pourrait donner sur une série un peu plus conséquente. Mais c'est vrai que l'idée de travailler un personnage développé sur plusieurs épisodes m'attirait depuis longtemps. Je pense que pour un acteur, c'est une expérience assez différente dans le sens où ça permet justement de construire un peu plus en profondeur et surtout d'essayer de développer un personnage avec une évolution peut-être un peu plus large. Après, je pense à des rôles comme celui de Bryan Cranston dans Breaking Bad, qui pour moi est une référence.
Ah oui, oh là
quand
là.
On pense à ce que son personnage devient entre le premier épisode et le dernier, c'est incroyable. Mais bon, après, ça, c'est un engagement sur moult
oui,
années.
Oui, sur plus donc, long terme, bon, c'est pas la voilà. même chose. Gaspard Ulliel, vous vous retrouvez avec Guillaume Niclou, alors pas du tout dans le même rôle, puisque dans Les Confins du Monde, sorti en 2017, vous étiez un soldat tourmenté de la guerre d'Indochine. Vous étiez plutôt en quête de vengeance qu'en quête d'amour à l'époque. Et vous aviez surtout envie de vous retrouver sur un nouveau projet avec Guillaume Niclou ?
Tout à fait, je pense que ça a été vraiment le moteur principal. Hein. Quand j'ai accepté de poursuivre un peu l'aventure avec Guillaume, c'est vrai qu'il m'a parlé de ce projet juste après qu'on rentre de cette expérience dans la jungle vietnamienne et l'envie de pousser un peu plus loin l'expérience à ses côtés m'attirait évidemment. Ça a été une vraie rencontre, je pense aussi bien pour lui que pour moi sur Les Confins du Monde. J'aime vraiment son approche, sa manière de travailler, sa manière de penser le cinéma. C'est quelque chose d'extrêmement stimulant pour moi comme expérience. Donc voilà, j'étais ravi qu'il me propose de poursuivre sur cette série.
À la fin de ce tournage, vous vous étiez juste dit « Bon, on est d'accord, on fait un deal, on se retrouve, quoi que ce soit, on se retrouve pour faire quelque chose ensemble. »
Oui, c'est un peu ça. Après, c'est un homme de peu de mots, Guillaume, mais on se comprend sans se parler. Mais oui, je sentais qu'il y avait cette envie commune de poursuivre l'expérience. Ouais.
Alors, dans Il était une seconde fois, il y a à la fois des flashbacks, il y a des flash-forwards, on retourne dans le passé, on va en avant, il y a aussi des rêves, des fantasmes. On se perd un petit peu, nous aussi, dans la temporalité et dans la réalité. Il faut essayer de suivre ou il faut vraiment se laisser porter ?
Je pense qu'il n'y a pas de règle. Après, je dirais que de manière générale, avec le cinéma de Guillaume, surtout dans ses derniers films, les films de Guillaume Niclou, il y a, je dirais, quand même quelque chose de l'ordre du fantastique mêlé à une expérience un peu spirituelle, métaphysique. Donc je pense que oui, si on est assez ouvert d'esprit,
oui,
ça peut peut-être aider à voilà, à se laisser embarquer un peu plus loin par le film. Mais je dirais qu'il n'y a pas une manière de voir cette série qui serait meilleure qu'une autre, parce que c'est ce qui me plaît, moi, chez Guillaume, c'est qu'il y a toujours plusieurs niveaux de lecture. Et le spectateur peut vraiment se raconter sa propre histoire et ça fera écho forcément à des choses très différentes chez les uns et chez les autres, puisque ça couvre quelque chose de très large, hein, tous les thèmes qui y sont abordés, qui sont d'ailleurs des thèmes récurrents qu'on retrouve dans tous les derniers films de Guillaume, que ce soit sur l'enfermement, l'obsession d'un ailleurs, d'un voyage, le lointain, et puis aussi cette idée d'une forme de résilience, hein, sur la perte d'un être cher, le deuil, donc je pense évidemment à Valley of Love ou à The End, le film qu'il a fait avec Depardieu dans la forêt. Et puis par rapport aux confins du monde aussi, je trouve qu'il y a plein de points communs. Mais en tout cas, c'est un cinéma qui instaure d'emblée un climat, et c'est ça que je trouve assez puissant.
Et justement, Gaspard Ulliel, vous parliez de voyage. Finalement, c'est pas forcément dans le temps, c'est aussi une quête intérieure. Quand on vous dit qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est aussi ça, votre personnage.
C'est-à-dire qu'après, sans vouloir donner une piste...
Oui, j'essaye de pas trop en
dire. Non, mais c'est effectivement, après, libre à chacun. On peut se dire qu'effectivement, est-ce que ce cube existe réellement? Est-ce que c'est pas juste une métaphore? Voilà, est-ce que ce sont pas juste des voyages mentaux au sein de la psyché de ce personnage? Pourquoi pas? Après, moi, c'est ça qui est intéressant en tant qu'acteur, c'est que quand je l'interprète, je m'efforce de ne pas privilégier une piste plus qu'une autre.
Pour laisser toutes ces portes là ouvertes.
Tout à fait.
C'est un fantasme que vous avez, vous, particulièrement, Gaspard Ulliel, de pouvoir remonter dans le temps. Est-ce que si vous aviez cette possibilité, vous viendriez changer quelque chose dans le cours de votre histoire ou pas?
Bon, ça, c'est l'éternelle question. Ouais. Je pense qu'on est tous tentés un jour de le faire. Après, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai peut-être un peu mûri et je répondrai non. Ça me tente moins que plus jeune, dans le sens où j'ai peut-être plus conscience des dangers et de... peut-être de l'aspect un peu pernicieux de la chose. Parce qu'après tout, en essayant de modifier le passé, peut-être qu'on arriverait à un résultat encore pire que celui qu'on essaye de modifier.
Oui, soyons contents aussi de nos échecs. Et puis je voulais aussi saluer les acteurs qui jouent à vos côtés. Il y a Freya Mavor et toute une pléiade de second rôle qui sont vraiment très très bons. Il était une seconde fois, c'est donc une mini-série en 4 épisodes réalisée par Guillaume Niclou avec vous, Gaspard Ulliel, Freya Mavor, je viens de le dire. Et les premiers des 4 épisodes sera diffusé sur Arte le 29 août à 20h55. Et l'intégralité de la mini-série est disponible dès aujourd'hui et jusqu'au 26 octobre sur arte.tv. Merci encore Gaspard Ulliel d'avoir été en ligne avec nous sur
plaisir.
Europe 1. Merci à vous et à bientôt.
Bonne journée.
Au revoir. Et le club de l'été se poursuit dans un instant. C'est Ben H qui va nous rejoindre dans ce studio pour sa carte postale mythomane. On le retrouve après Rose, l'arme à paillettes sur Europe 1.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
Il enregistre tout ce que je dis en off.
Écoute, fais attention, non mais c'est vrai, on dirait que tu fais exprès.
Déjà, j'ai aucun filtre et puis en plus, même si on me dit qu'il faut faire attention, je fais pas attention.
Quoi? Oh, bon, dites pas de conneries.
Tout ce qui a le goût de brûler, c'était la grande spécialité de ma mère.
À la boulette.
Lise Pressac.
Et je le rappelle que c'est Daniel Picouli qui disait ça et c'est
alors
pas moi.
Aujourd'hui, c'est particulièrement
bisous maman. Il est 9h52 sur Europe 1. Le club de l'été se poursuit avec notre invité, le comédien Guillaume de Tonquédec. Je vous présente Ben H.
Enchanté, monsieur de Tonquédec.
Il nous a fait voyager tout l'été avec ses cartes postales mythomanes. Et ce matin, c'est sa toute dernière carte postale de l'été.
Arrêtez, je suis un garçon hypersensible. Ouais. J'ai du mal avec les adieux et je me suis promis de pas chialer pour cette dernière. C'est vrai, c'est jamais un moment facile, les adieux, après tout ce qu'on a vécu cet été. Lise, je me sens comme Christophe Ripper dans le club Dorothée. Ah.
C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense, les yeux pleins de chagrin.
Avec la même impuissance face au temps assassin dont l'indolence rend orphelin. C'est ça, c'est la suite des paroles. Oui. Ça veut strictement rien dire, mais ça représente bien ce que je ressens ce matin.
C'est très touchant, Ben H, mais n'en faites pas trop quand même. Hein.
Non, écoutez, j'imagine que vous avez connu, comme tout le monde, ces chagrins d'amour de vacances, moment cruel où tu dois quitter cette personne. Tu as beau la connaître depuis seulement 3 jours, mais tu n'as jamais été autant amoureux de toute ton existence. Ce moment où la vie, la fatalité, le péage de Saint-Arnoux viennent prendre ton cœur d'adolescent fragile pour lui latter la tronche et le rendre en miettes. Ce moment où tu maudis tes parents de ne pas avoir pris une deuxième semaine parce que toi tu pars et c'est déjà très dur, mais en plus elle reste et ça c'est terrible. On promet qu'on va se revoir, bien sûr, que la rentrée scolaire et les 700 km qui nous séparent n'auront jamais raison de notre amour, bien sûr. Ouais, ça fait bientôt 17 ans que je suis parti du camping du lac et j'ai toujours pas de news de toi, Bérangère.
Alors malgré les années, ça a quand même l'air de vous toucher encore. Hein.
Je vous cache pas que de mon côté j'avais beaucoup pleuré sur le coup, Lise. Je me dis que si ça se trouve quelque part dans le pays en ce moment, un ou une ado m'écoute à l'arrière de la voiture, et bien cher jeune au cœur brisé, sache donc tes larmes et retire-moi ce casque de tes oreilles. C'est bientôt la rentrée, tu vas retrouver les vrais dossiers de l'année. Dans 2 jours, tu l'as zappé. Et puis écouter des chansons tristes, quand on est triste, ça n'a jamais fait du bien. En revanche, si tu écoutes du Aya Nakamura, écoute plutôt des chansons tristes, ça te fera quand même moins de mal.
Ça, c'est pas gentil, c'est gratuit. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Mais d'un point de vue strictement linguistique, c'est pas complètement faux non plus. Bref, tout ça pour vous dire, notre histoire, chère Lise Pressac, c'est un peu comme un amour de vacances. Ce fut intense, très fort et trop court.
Oui.
Ouais, ouais, dès lundi, je vais retrouver Anne Romanoff de 11h à midi sur Europe 1. Ouais. Je vous cache pas que je me sens comme un mari infidèle qui aurait trompé son épouse tout l'été avec une autre, plus jeune. Ah, j'imagine très bien.
Elle m'a aimé.
Mais j'imagine très bien comment ça va se passer quand je vais arriver lundi matin. Alors, Ben, elle a l'air sympa, Lis Pressac. Mais non, Anne, c'est pas du tout ce que tu crois. Enfin, c'est peut-être pas ce que je crois, mais tu l'as fait 17 fois cet été avec elle. Mais enfin, tu m'avais dit que je pouvais aller chroniquer avec une autre, que ça me ferait du bien d'aller voir ailleurs. Oui, mais je pensais pas que tu prendrais autant de plaisir. Et elle aurait raison. Elle aurait raison, ce fut un vrai plaisir d'être à vos côtés tout l'été, prendre régulièrement 4 minutes de plaisir au milieu de 3 femmes, ça n'arrive pas à tous les hommes. Je ne veux pas écouter du Christophe Ripper, je ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente rentrée et à bientôt, j'espère.
Oh là là, merci Benach.
Mignon.
Vous allez me faire pleurer, dis donc.
Ouais, je suis très ému.
On s'écrira, dites-moi.
Bah, avec plaisir, j'attends votre lettre.
Mais pour de vrai. Hein.
Bah, oui, bien sûr.
Merci vraiment infiniment d'avoir été à nos côtés tout l'été. Ben, c'était votre dernière chronique, ça a été un plaisir vraiment. Et vous l'avez dit, on vous retrouve à la rentrée avec Anne Romanoff quand même, dès lundi,
avec
vous serez
Anne
là tous
Romanoff,
les jours.
Avec Anne Romanoff, et je me permets à la Comédie des Trois Bornes à partir du 14 septembre.
Mais faites votre pub, pour
la Comédie des Trois Bornes, un spectacle qui s'appelle Si j'étais, ce sera à 20h tous les vendredis, tous les samedis.
Vous êtes seul sur scène ?
Seul sur scène.
Oh là là,
hey, vous avez la trouille en cours.
Bah évidemment que j'ai la trouille. C'est pas le premier spectacle, mais ça reste une première, et du coup, ouais. Bah là, je pars répéter.
Est-ce qu'on peut savoir si c'est ce rôle qui vous a valu une coupe improbable pendant tout l'été ?
Non, je l'attends ce rôle-là.
C'est un autre rôle ?
Ouais, j'attends. Bientôt le tournage.
D'accord, très bien.
On ne peut pas savoir plus ?
Mais non, on ne peut pas avoir plus d'infos ?
Je peux pas trop en parler, vous savez. Comment c'est ? Non, c'est le film d'Anne Romanoff.
Mais entre nous, là.
Ah d'accord, bon, bah, très bien, on est entre nous. Bon, ça vous a touché, Guillaume de Tonquédec, ce petit billet
bah, c'est super,
nostalgique.
C'est tellement juste, en plus d'amour de vacances.
Bah, on a connu tout ça, hein, n'est-ce pas, Ben ?
Oh là, oui.
Je sais, c'est triste. vous avez
cru... Ça fait quelque que tu as écrit, que tu vas jouer ?
Oui, tout à fait. Bon, d'accord. Ouais, tout à fait. Vous êtes invité, bien sûr, Guillaume.
Ouais, mais je jouerai en même temps.
Ah, c'est vrai ? Bah oui. Il va falloir se dédoubler.
Avec plaisir.
Vous avez connu ça, enfin les colos qui se prolongent avec Fais pas ci, fais pas ça. Est-ce que vous avez gardé contact ? Est-ce que vous vous écrivez encore ? Est-ce que vous vous voyez avec toute la bande ou pas ?
Oui, on se voit toujours, on se donne des nouvelles, etc. Et surtout entre familles, c'est marrant, nous on est très fidèles à notre famille Le Pic. On n'aime pas trop les boulets.
C'est vrai, donc du coup, c'est par famille.
On prend des nouvelles quand même, non, bien sûr, mais c'est vrai que avec Valérie, on se voit régulièrement et les enfants aussi. On essaie de se voir plusieurs fois dès qu'on peut, dès qu'il y en a un qui joue, on va le voir, etc.
On dîne après,
on refait le monde.
Ah, bah
c'est très
sympa, mais ça, c'est les meilleurs moments. On avait reçu Bruno Salomon lundi, qui lui se fait encore appeler par le nom de son personnage dans la rue. Est-ce que vous arrive encore toujours ?
Ouais, bien sûr. Tant mieux, c'est des personnages qui nous ont apporté la popularité. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un acteur.
Ça, c'est vrai.
Franchement, c'est ce qu'on rêve tous de vivre. Donc, merci Renaud Le Pic.
Il vous manque un peu, Renaud Le Pic ?
Oui, j'adore le personnage. C'est tellement drôle. Enfin, l'idée est tellement drôle de Anne Jaffery, c'est extrêmement simple. Mais dès qu'il arrive quelque chose dans une famille coincée, tout est sujet à tous tes problèmes. Il y a un épisode entier sur la place de la cuillère à soupe à table, où on la met, c'est extrêmement drôle, alors c'est totalement futile. Et tout devient, alors vous imaginez si, comme c'est le cas, ils apprennent que l'une de leurs filles est homosexuelle.
Ah oui, là c'est...
C'était un cataclysme dans la famille, mais traité avec beaucoup d'intelligence, de finesse et de vérité, comme toujours dans Fais pas ci, fais pas ça. C'est pour ça que j'adorais cette série.
Ouais, il y a eu 9 saisons et ça a marqué vraiment tout le monde. Merci encore, Ben H. Je suis vraiment très triste de vous quitter, en fait.
Faut pas, ils
ont plein de bonnes choses. Merde, comme on dit.
Merci.
Tu sais pourquoi on dit merde ? C'est passé parce qu'on venait
devant les théâtres
à cheval. Et plus il y avait de merde de cheval devant le théâtre, plus on pouvait souhaiter de merde aux gens. Voilà, ce n'est pas du
bien plein de merde.
C'est bien plein de merde. On se retrouve dans un instant. À tout de suite sur Europe
1. 9h, 11h, le club de l'été. Lise Pressac.
Bienvenue dans la deuxième heure du Club de l'été sur Europe 1. Nous sommes toujours en direct jusqu'à 11h pour partager nos coups de cœur culturels et gastronomiques. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1, notamment si vous avez un message ou une question pour notre invité, le comédien Guillaume de Tonquédec. Sophie Massieu, grâce à vous, nous allons faire un tour dans les Côtes d'Armor. Où ça exactement ?
Alors,
vous allez
on ira près de Lannion.
Ah, bon, on se rapproche, on a de plus en plus d'infos, on va finir par savoir où on va.
C'est toujours faire plaisir à Guillaume de Tonquédec, près de Lannion.
Sophie Moons, qu'est-ce qu'on mange ?
Du pesto, une sauce iconique, mais ô combien maltraitée. N'achetez jamais de peau. Je vous ferai mon petit bazar tout à l'heure, je vous expliquerai que c'est pas bon. Et puis on parlera de galettes, Guillaume. Galettes ou crêpes chez vous en Côte d'Armor ?
Les deux, j'adore.
Bon, on fera un petit point avec un grand spécialiste.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Lis Pressac.
Guillaume de Tonquédec, je vous propose d'embarquer dans notre machine à remonter le temps musical. Grosse machine. Savez-vous quelles chansons ont fredonné en 1966, année de votre naissance ?
Ah, non. Enfin, il y en avait pas mal.
Oui, évidemment. Mais alors, l'été, c'était ça. Pour le coup, on danse à deux là-dessus.
C'est Adamo, ça ?
C'est Adamo.
Voilà. Genre le parfumé.
Salvatore Adamo, ton nom.
C'est un peu daté d'époque quand même.
Ouais, mais on peut faire un quart d'heure américain dessus. Ah, donc c'est ça, c'est bien.
C'est bien. Le problème du quart d'heure américain, c'est que si ça se passe mal, ça paraît très long.
C'est ça. C'est clair. En 1986, quand vous décrochez votre premier rôle au cinéma dans Cours privé de Pierre Granier de Fer, l'été, ah, on se déhanchait plutôt là-dessus. Les démons de minuit.
Ça marche encore. Hein, image. On écoute ça, on bouge. Hein.
Oui. En boom ou aujourd'hui ou en boîte de nuit. Enfin, quand il est très très tard, ouais, en reçoit. Comme disent les jeunes. Enfin, quand en 2014, vous jouez dans la pièce Un dîner d'adieu de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, mise en scène par Bernard Murat. C'était d'ailleurs la même équipe que pour le prénom, en 2010.
Les mêmes auteurs et les mêmes metteurs en scène.
Ouais, toute l'équipe était un peu la même. L'été à la radio, on entendait beaucoup ça. C'était Sia Chandelier, il y avait notamment une grande chorégraphie dans le clip. Vous écoutez beaucoup de musique, alors on l'a entendu, il y a du grise, il y a du disco, etc. Il y a quoi d'autre dans votre playlist, Guillaume de Tonquédec ?
Il y a tout, moi j'adore, à part la musique métal ou les trucs un peu violents. Sinon j'adore tout, ça peut être aussi de la musique classique. Je peux écouter, ouais, j'écoute de tout vraiment, j'adore ça quoi.
Vous écoutez de la musique avant de monter sur scène ou pas du tout ? Ou il faut du calme et du silence ?
C'est plutôt après moi. Pour me défouler, me déchaîner, ou je sais pas, je peux arriver chez moi, mettre la musique à fond et refaire un dîner après être sorti de scène. Ouais. Non, avant, c'est plutôt la concentration.
Ouais, forcément. Alors, Guillaume de Tonquédec, on vous a déjà vu dans un clip, en tout cas musical.
Mais savoir donner.
Ah oui, j'ai cherché.
Je me disais, qu'est-ce que j'ai pu faire? C'était pour l'excellent film Coexister.
Ah, c'était super, de Fabrice Eboué.
Oui, ouais. Vous avez dû beaucoup vous marrer sur ce tournage.
On a beaucoup, beaucoup rigolé avec Ramzy, Jonathan Cohen. Audrey Lamy, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup ri. Ouais. Ouais.
Donc, il y avait un prêtre, un rabbin, un imam. Enfin, ouais, c'était pas vraiment un imam. Hein,
ouais,
il était
un faux imam. Il n'a pas réussi à trouver un vrai imam pour chanter, en fait, que les trois communautés religieuses chantent ensemble. C'était un très joli thème. C'était très drôle, mais c'était aussi assez culotté. C'est pour ça que j'ai dit oui à Fabrice, parce que je lui ai dit ton écriture, c'est pas seulement drôle. Il y a aussi un message derrière qui fait du bien. Quoi. Non, le film est vraiment super. Quoi.
Il est vraiment super. C'est vous qui chantiez pour de vrai ou pas?
Non, moi j'ai été doublé. Je suis celui qui a le plus pris de cours, le plus travaillé.
C'est vrai
et ils m'ont doublé.
Oh là là. Tout ça pour
donc,
ça.
Je chante avec tout mon cœur. Hein. On ne doit pas regarder les vraies prises directes, ça ne va pas être très joli. Mais je chante avec tout mon cœur.
C'est l'essentiel.
Mélis va vous donner des cours.
Oui, moi je chante très faux, mais je le fais avec beaucoup de cœur aussi. Après ce voyage dans le temps, je vous propose un voyage tout court sur la terre de vos ancêtres, Guillaume de Tonquédec, les Côtes d'Armor. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Lise Pressac.
Nous sommes toujours en direct sur Europe 1. Il est 10h12 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec notre invité, le comédien Guillaume de Tonquédec, et mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Mounce. Alors avant d'aller faire un tour dans les Côtes d'Armor, Sophie Massieu, c'est l'heure de votre journal de la culture et ce week-end, vous le sentez plutôt rock'n'roll.
Oh que oui. Et je vous invite à vous rendre au domaine national de Saint-Cloud pour le traditionnel festival Rock en scène qui se tient de ce vendredi, donc demain, à dimanche. Au programme de très belles têtes d'affiches, comme à 21h vendredi, ceci. The Cure, qu'on ne présente plus évidemment, hein, qui fêtera le bel âge de 40 ans. Mais aussi des interprètes moins connus peut-être, comme le groupe français Catastrophe, ça c'est samedi et c'est à 15h30.
Je ne connaissais pas du tout.
Voilà, j'ai fait exprès, j'essaie de vous faire découvrir des choses un peu, Lise.
C'est bien, c'est bien.
Jeanne Adède et son grain de voix que je trouve, moi, vraiment d'une pureté incroyable, ça c'est vendredi à 18h45. Alors moi, en fait, je vais arrêter là mon journal de la culture parce que je vais écouter la chanson.
Ah bon, d'accord, bah, très bien, c'est la révolution.
Je trouve qu'elle a une voix magnifique. Ouais, c'est l'avant-dernière, c'est la révolution. Vous écouterez aussi le groupe anglais Falls, ça sera dimanche à 21h. De quoi vous faire oublier le blues du dimanche soir,
carrément.
Lise. Alors moi j'ai un seul regret, c'est que les places elles sont quand même assez chères, autour de 70€ la journée, c'est pas forcément accessible pour tout le monde.
Oui mais on voit énormément d'artistes donc pourquoi pas. Alors on a fini par vous donner le goût des séries, Sophie Massieu, j'ai l'impression, on aura mis deux semaines. Hein.
C'est peut-être mon effort d'intégration. En tout cas je voulais vous dire que American Crime Story va connaître une troisième saison. C'est une série de Ryan Murphy et cette fois le thème sera l'affaire Monica Lewinsky. Lewinsky. Vous vous souvenez, Lise,
oui,
de cette
évidemment,
affaire,
hein, évidemment.
Elle a failli, cette affaire, causer l'impeachment de Bill Clinton au cours de son deuxième mandat. Impeachment, destitution en français, ce sera justement le titre de cette troisième saison. Elle sera tournée en février prochain et elle devrait être diffusée en France sur Canal Plus Série dès le mois de septembre suivant, donc 2020. Et Monica Lewinsky compte parmi les producteurs exécutifs de cette nouvelle saison. Les deux, oui. C'est sûr, comme ça, c'est mieux. Les deux précédentes, je ne sais pas si vous le savez, Lise, elles avaient eu pour sujet le procès du sportif O.J. Simpson et puis l'assassinat de l'Allemand, bien sûr, hein, comme le nom l'indique, Gianni Versace, donc plaisante, du couturier italien.
Oui, un projet mi-culturel, mi-sportif pour terminer votre journal de la culture.
Et oui, élément Terre, terre comme la terre, le projet de la navigatrice Marie Tabarly. Sur son Penguin 6, elle parcourt le monde pour, dit-elle, réfléchir aux défis de notre humanité et construire un monde meilleur, un vivre ensemble un peu plus doux. En sont issus ensuite des documentaires, des campagnes sur les médias, dans des médias, sur les réseaux sociaux, etc. Et avant de mettre les voiles ce jour au sens propre du terme, elle nous fait la grande amitié, on ne va pas se mentir, je la connais, d'être en ligne. Bonjour Marie!
Bonjour.
Bravo, et bon anniversaire.
Oui, bon anniversaire, Marie. Oui.
Alors, direction les Açores, prête?
Ouais, non.
Il va falloir.
On va être prêt. Le bateau, lui, est prêt. Mais du coup, à force de s'occuper du bateau, je me suis pas occupée de moi. Donc là, c'est un peu toutes les affaires sur une énorme bâche et à trier ce qu'on prend pas, le matos, le machin et tout, et faire les dernières lessives.
Oui. Et le départ est à quelle heure?
Le départ est à 18h.
Bon, on passera fort fort à vous. Alors, quelle belle rencontre prévue cette fois? J'ai lu que vous embarquiez Nicolas Hulot, c'est vrai ce mensonge?
Ouais, c'est vrai.
Waouh, la classe. Et qui d'autre? Quelle belle rencontre avez-vous imaginée?
En fait, quand j'ai créé l'escale, on a eu l'idée des Açores en rentrant de l'Islande. Quand on pense aux Açores, on pense à 1000 volcans et avec énormément de grottes sous-marines et plein de spéléos à faire. Et du coup, je me suis dit qu'emmener des gars qui avaient eu la tête dans les étoiles sous l'eau, ça pourrait être un super beau contraste. Du coup, on part avec deux spationautes, Jean-François Clairvoix et Jean-Jacques Xavier. Donc Jean-François qui a volé 3 fois dans l'espace et Jean-Jacques qui est déjà à bord, qui est arrivé hier, qui lui est scientifique et qui a volé 1 fois dans l'espace. On va rejoindre Fred Buil, un apnéiste qui est recordman du monde, qui est aussi photographe sous-marin, qui est vieux aux Açores. On a Tom de Dorloto, parapentiste. On a Coralie Balmy, la nageuse olympique qui est maintenant reconvertie en protection de la vie sous-marine.
Bon, des belles rencontres. Et sur place, alors vous avez déjà prévu un petit peu de réaliser des documentaires, des choses comme ça. Vous savez un petit peu comment ça va se passer une fois la traversée de l'Atlantique bouclée?
Alors, la mi-traversée, hein. Ça reste au milieu de l'archipel et quand même perdu au milieu de l'Atlantique. Oui, bien sûr, on va faire beaucoup de podcasts cette année, ce qu'on n'a pas pu faire l'année dernière. C'est une belle envie de notre part de vouloir faire ça et pouvoir rendre du contenu long, sans montage et d'ambiance et sans forcément se préoccuper de l'image et vraiment avoir le son. On va faire beaucoup d'interviews, beaucoup de Skype avec la Terre aussi pour inviter d'autres personnes à bord comme Alban Michon, comme Anne Kéméré, comme ça ils pourront voyager, enfin donner aussi leur avis pendant qu'on sera là-bas, sur place. Puis bien sûr de web-séries, etc.
Et pour suivre tout ça, on renvoie sur votre site élémentaire, te2re.earth, comme la Terre
Facebook,
en anglais.
Facebook, Instagram,
tous
les liens possibles. Merci beaucoup Marie d'avoir été avec nous. À titre personnel, je t'embrasse.
Merci beaucoup Marie et bon anniversaire encore une fois et bon vent.
Merci beaucoup et puis vous passe aussi petit dire sur la prochaine.
Hein. Merci beaucoup.
Belle journée.
Guillaume de Tonquédec, vous serez ce week-end dans un festival, vous, à Angoulême, pour 2 films, Place des Victoires de Johan Guillouzoui. J'avais réussi une fois, du coup je rate la deuxième, qui sortira au cinéma le 6 novembre, et L'Esprit de famille de Éric Bénard, qui sortira en janvier 2020. Vous pouvez nous dire un mot de Place des Victoires?
Place des Victoires, c'est un premier film donc, de Johan Guillouzoui, un breton.
Comme son nom l'indique.
C'est pas pour ça que j'ai dit oui, mais c'est une très jolie histoire d'un homme qui, suite à un accident de la vie, un divorce, est en train de tout perdre. Il était chef d'entreprise, il avait une belle famille, la famille idéale, rêvée, etc. Et en fait, cet accident de la vie fait qu'il est en train de... On assiste à la chute de ce personnage. Il a notamment une interdiction prise contre lui, il ne peut pas voir ses enfants. Et le seul lien qu'il a avec eux, c'est son téléphone portable qu'un petit rom dans la rue va lui voler. Et il va attraper cet enfant et le séquestrer pendant quelques heures pour lui demander de lui rapporter cet objet qui est le lien avec ses enfants, en fait. Et ces deux personnages que tout oppose, qui n'auraient jamais dû se rencontrer dans la vie si tout s'était bien passé, il aurait juste déposé plainte ou racheté un autre téléphone portable. Là, l'objet est très important pour lui. Ces deux personnages vont faire un bout de chemin ensemble et ces deux solitudes, parce que la vie dans le camp de Rome n'est pas très marrante non plus pour ce petit garçon, on le comprendra. Et ils vont s'épauler l'un l'autre et réussir à rendre leur vie plus belle, meilleure et à retrouver de l'espoir. C'est un très, très touchant et très joli film. Ouais.
Et ça sortira
avec un petit garçon qui s'appelle Piti Pouya, qui a été casté, comme on dit, trouvé dans la rue, qui habite vraiment dans une caravane et qui est extraordinaire.
Et ce sera donc à voir le 6 novembre.
À partir du 6 novembre sur les écrans.
On n'y manquera pas. Voilà. J'arrête pas de vous le promettre, mais on va finir par prendre la route pour les Côtes d'Armor juste après Phoenix avec Listomania sur Europe 1.
9h, 11h. Le club de l'été sur Europe 1.
J'ai une mémoire infinie pour les paroles de chansons. Moi, tout ce qui est l'âme, la Rousseau, machin, je peux le chanter par cœur, mais je chante faux, mais c'est terrible.
Non, qu'est-ce que vous allez chercher là ?
Ah, si, si, si.
On vous écoute.
On nous parle au solidaire, à le mal qu'on peut nous faire. Le compte Europe 1, ils ont fait une vidéo. On envoie tout de suite Lise Pressac sur la prochaine saison de The Voice, quoi.
Hein ? Alors, ils s'en foutent.
Lise Pressac.
On a un talent, là. On a un talent. Ça
ouais, c'est vrai. En plus, ils ont fait ça à Europe 1. Je vous l'avais dit, Guillaume, ouais,
c'est bien.
Oui, c'est bien. Voilà, on n'en dira pas plus. Il est 10h24. C'est la suite du Club de l'été sur Europe 1 avec Sophie Massieu et Sophie Muns. Nous sommes toujours donc en compagnie de notre invité, le comédien Guillaume de Tonquédec. Alors, Guillaume, vous n'y êtes pas né, mais la Bretagne, c'est la terre de vos ancêtres originaires du village de Tonquédec. Québec, dans les Côtes d'Armor. Et vous avez un attachement évidemment particulier à cette région. C'est viscéral, organique, c'est cet attachement.
Ah oui, c'est bien de dire ça. Oui, ça me plaît. Il faut que j'y retourne le plus régulièrement possible, sinon ça me manque. Ouais. Viscéralement, oui, c'est vrai. Mmh. C'est vrai.
Et du coup, quand vous y allez, s'il y avait une odeur, une saveur, quand on vous dit Bretagne pour vous télétransporter là tout de suite, c'est quoi qui vous vient ? Bon, pas forcément le vignou. Quoique.
Non, mais ça peut être l'iode et puis le troène du jardin de ma grand-mère qui était juste à côté de la plage. Donc voilà, ces odeurs-là, tout d'un coup, c'est les vacances.
Et puis le petit crachin, là.
Non,
en Belgique.
C'est un mieux.
Non, mais moi, je. Ça fait du bien, ce petit crachin.
C'est la chose que je vous aime bien, sinon je vous aurais sorti un des proverbes terribles. En Bretagne, je vous le dirai hors antenne.
Ah non, dites.
Non, mais l'endroit
où on bronze. Je vois très bien.
L'endroit où on bronze le mieux en France, c'est en Bretagne.
Absolument. Oui, parce que l'iode permet de fixer le bronzage.
Exactement.
D'une part, et puis comme le soleil, on peut se permettre de ne pas se protéger avec du puissance 42. Et voilà, c'est ça. Même les peaux blanches comme la mienne.
Vous avez toujours un bateau là-bas, Guillaume ?
J'ai toujours un bateau là-bas. J'adore aller naviguer sur l'eau parce que le paysage change constamment grâce à la lumière, mais aussi grâce au phénomène des marées. C'est-à-dire que. Il y a des rochers qui apparaissent qu'on n'avait pas vus avant. C'est extraordinaire. Vraiment, je peux me mettre devant la mer à regarder ça. Et ça ressource, ça fait du bien. Puis ça permet de relativiser aussi l'existence. C'est-à-dire que la mer, on est obligé de faire avec. Il ne faut pas essayer de lutter contre. On n'est pas grand-chose. On ferait bien de prendre un peu plus en compte la mer et la nature. Parce j'espère qu'ils gagneront au bout du compte. Mais respectons tout ça un petit peu plus. Ce serait pas mal.
Ça oblige à l'humilité, tout ça.
À l'humilité, absolument.
Ouais, exactement, l'humilité. Oui. Sophie Massieu, grâce à vous, on va y aller dans les Côtes d'Armor, à Lannion. Mais alors, vous avez déniché un trésor un peu inattendu.
Eh ben oui, alors je ne peux pas dire mieux. Hein. Moi, bravo pour cet amour déclaré à la Bretagne. Et la chose un peu inattendue, c'est une distillerie, figurez-vous, qu'on fait du whisky. En France, ce n'est pas forcément très connu. On en recueille souvent plutôt, on en achète plutôt venu d'Irlande ou d'Écosse. Mais voilà, on a tort. Nous retrouvons pour nous présenter cette distillerie Varenghem, son directeur, David Roussier. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Alors d'abord, petite précision, le nom ne sonne pas très breton. Hein. ça vient en fait d'une famille du Nord, de la France, qui s'est installée là au début du XXe siècle. Donc c'est un peu une histoire de famille au départ. Et votre distillerie, en fait, elle a été la première à mettre au point un whisky français.
Oui, absolument, absolument. Ça a démarré en 83. À l'origine, on était plutôt spécialisé dans les liqueurs. La famille Varenghem qui était venue s'installer était plutôt sur les liqueurs. Et en 83, mon beau-père s'est lancé dans le whisky en se disant que s'il y avait un spiritueux d'origine celte par excellence,
c'était bien celui-là.
Whisky, donc c'était normal d'en faire en Bretagne.
Et aujourd'hui, vous faites même un single malt ?
Oui, absolument. On fait un single malt à la marque Armorik, qui commence à se faire un petit peu reconnaître aux quatre coins de la France et du monde, puisqu'on exporte de plus en plus. On porte haut les couleurs de la Bretagne. Du coup.
Mais alors du coup, quoi ? Le terroir est particulièrement propice. Qu'est-ce qu'il faut de si particulier qu'on trouve aussi en Bretagne pour faire du whisky ?
Alors on a un climat qui est très propice. Évidemment qui est assez proche de ce que nos cousins écossais peuvent avoir. L'avantage qu'on a en Bretagne, c'est qu'il fait un petit peu plus chaud. Mmh. Et du coup, on a un vieillissement qui se passe, on va dire, un petit peu plus rapidement qu'en Écosse. On a une eau aussi de très très bonne qualité. Donc nous, on puise à une centaine de mètres de profondeur dans des failles granitiques. Donc ça fait une eau de très très bonne qualité aussi pour le whisky. Et puis là, on est en train de construire aussi une filière sur l'orge et l'orge pour la distillation. Et on s'aperçoit qu'en fait, en Bretagne, l'orge est de très très bonne qualité également.
Donc c'est une part de la culture celtique, vous diriez, le whisky ? De la culture commune entre nous et nos cousins celtes ?
Oui, oui, tout à fait. C'était un petit peu... En fait, la réflexion à l'origine, quand on s'est lancé dans le whisky, c'était de se dire qu'il fallait trouver un spiritueux qui ait une identité bretonne forte. Alors, on a évidemment le lambic, la fine Bretagne, les pommeaux, les choses comme ça. Mais il fallait quelque chose qui puisse un petit peu donner un avenir un peu plus serein à la distillerie. Et justement, la boisson celte par excellence... Le spiritueux celte par excellence, c'est vraiment le whisky et toute la tradition celte qui est autour. Quoi.
Bon, super. Vous faites aussi du chouchen, de la bière, évidemment.
Ah, bah oui, forcément.
pour connaître les secrets de fabrication d'un whisky, sachez donc que la distillerie, elle peut se visiter, qu'elle se visite toute l'année, que c'est sur réservation, que cela ne coûte que 5 euros et qu'on compose un numéro de téléphone pour se renseigner, le 02 96 37 00 08. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Alors, voilà, tous vos alcools, on les déguste. Hein. On ne les boit pas, voilà, on les boit avec modération.
Avec notre voilà. meilleur ami, modération. Merci David Roussier d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de la distillerie Varangen. Dans un instant, Sophie Moons va nous parler de crêpes et de galettes pour accompagner tout ça.
Sans modération.
À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1.
C'est la suite du club de l'été en direct avec mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Moons. Et ce matin, nous sommes en compagnie du comédien Guillaume de Tonquédec. C'est une question traditionnelle que je pose tous les jours. Jusqu'à maintenant, je crois que personne nous a répondu non. Est-ce que vous êtes gourmand, Guillaume de Tonquédec ?
Je suis hyper gourmand. C'est pour ça que cette émission, je ne pouvais pas la rater. J'ai attendu le dernier moment pour venir. Entre la culture et le goût culinaire, la cuisine, j'étais obligé de venir chez vous. Merci de me recevoir.
Vous étiez fait pour cette émission. Exactement. Vous êtes plutôt sucré ou salé, Guillaume de Tonquédec ?
Les deux. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le sucré quand même.
Ouais. Ouais. Votre Madeleine de Proust ?
Les meringues que je faisais avec ma maman.
Ah, c'est même pas les traumas.
Bien croustillante à l'extérieur, ouais. Bien moelleuse à l'intérieur, comme disait Gaston Lenôtre.
C'est génial. Ah ouais. C'est génial.
Bon. C'est facile, hein, il faut essayer deux, trois fois et puis
pas
c'est
évident,
parti.
La cuisson, c'est
compliqué les meringues.
100 degrés, 1h-1h30, ça devrait le faire.
Ah bon. Ouais, la dose de sucre, il faut enlever les germes dans les blancs d'œufs et puis mettre une petite pincée de sel avant de les faire monter en neige.
Ah, mais vous êtes un pro, vous êtes une
pro.
Bon, en Bretagne, on mange quoi, forcément?
Ouais. L'hymne, s'il vous plaît, des supporters du Stade Rennais. Galette saucisse, je t'aime. Ça, c'est de la poésie.
Évidemment, c'est la base, la galette saucisse.
Mais oui, qui dit Bretagne dit évidemment galette, crêpe. Mais au fond, crêpe ou galette ?
Ah, les deux.
Bon, on va demander tout ça à notre grand spécialiste du jour, Rodolphe Brérel. Bonjour Rodolphe.
Bonjour Sophie.
Vous êtes crêpier à Dinard chez Maître Sarrazin. Oui. Alors évidemment, tout est question de vocable entre la basse Bretagne et la haute Bretagne. On ne parle pas de la même chose. Racontez-nous, c'est quoi la différence entre la galette et la crêpe ?
Tout à fait, c'est un grand débat depuis des lustres. En basse Bretagne, on va parler de crêpes pour crêpes de froment, crêpes de sarrasin. Ouais. Alors qu'en haute Bretagne, on distingue le sucré et le salé avec les crêpes pour le froment. D'accord. Et les galettes pour le sarrasin.
D'accord. Donc, dans les Côtes d'Armor, on va parler de crêpes, c'est ça, si je vous suis bien? Parce que voilà. D'Armor, région chère
voilà,
à Guillaume.
Voilà, tout à fait.
Ok.
Voilà, tout à fait. On va parler de crêpes de façon générique, mm-hmm. alors qu'ici, en Haute-Bretagne, on distingue les crêpes et les galettes.
D'accord. Alors, évidemment, parler de galettes bretonnes, c'est parler du blé noir, de la farine de sarrasin. Il y a une culture, une filière qui se développe chez vous. J'ai même entendu parler d'une association blé noir tradition Bretagne.
Absolument. C'est une association qui s'est créée à l'initiative de minotiers et de crêpiers.
Ouais.
Et qui a pour vocation de protéger et de redévelopper et de redynamiser la culture de la graine historique de Bretagne, qui est la harpe noire,
bien.
Celle que j'utilise en ce qui me concerne. Et donc, c'est la graine qu'on avait exclusivement en Bretagne avant 1970, date à laquelle on s'est mis à importer des semences de l'étranger pour gagner en rendement.
on a un peu perdu en saveur. Et du coup, cette association, Blé Noir Tradition Bretagne, elle redynamise la graine historique de Bretagne, la harpe noire.
Voilà, de la galette.
Qui est plus riche en saveur.
De la galette véritablement locale, avec des savoir-faire et des meuneries qui travaillent à l'ancienne, je l'imagine, du coup.
Oui, 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 tout à fait. On a des...
Ah, on vous a perdu, ah. Rodolphe.
Rodolphe, revenez.
Allô, le téléphone s'est pas levé, non.
Allô, allô.
Le téléphone allô, est tombé allô. Dans la pâte à crêpes.
Allô, allô.
Vous nous entendez?
Allô, oui, je vous entends.
Voilà, donc je le disais, donc il y a vraiment une réinscription de ce blé noir dans les savoir-faire d'antan avec effectivement des céréales made in Bretagne. Et c'est tout l'intérêt effectivement de ces nouvelles démarches. Alors effectivement, quand on parle de galette, on parle aussi de la fameuse, enfin de la biligue, c'est la fameuse crêpière. C'est comment est-ce qu'on peut l'appeler?
Alors, voilà, c'est en fait elle a plein de noms selon les pays, en fait, ouais. Selon les pays bretons. En Basse-Bretagne, on va parler de pierre et de tuiles, de bilique, pardon, et en Haute-Bretagne, on va parler de pierre, de tuiles, de galtier également. Encore une fois, chaque pays a sa recette et ses appellations pour chacun des ustensiles.
D'accord, mais alors Rodolphe, si on veut s'y mettre à la galette bretonne à la maison et qu'on a juste une simple crêpière, c'est jouable ou c'est pas possible?
Alors, pour les crêpes de froment, ça va être plus facile.
Ouais.
Pour les galettes, c'est un peu plus compliqué puisqu'il nous faut une tuile en fonte.
D'accord.
Beaucoup plus grande en règle générale, elle fait 40 cm de diamètre, donc il faut être bien équipé.
Ouais,
mais après,
donc un petit investissement.
Il suffit d'acquérir le tour de main.
Ouais.
Et c'est quoi les
ingrédients de l'appareil pour une galette toute simple? On mettrait quoi, donc farine de sarrasin uniquement?
Là encore, chaque pays a sa recette.
Et votre galette, alors
dans le trigor de Guillaume de Tonquédec, on utilise des œufs, du froment, du lait,
ouais,
pour réaliser de la galette. Ici, en Haute-Bretagne, sur la côte d'Émeraude à Dinard notamment, et tout le pays de Saint-Malo et nord d'Ille-et-Vilaine, la galette, elle est constituée uniquement de sarrasin, d'eau et de sel de Guérande.
Encore plus
exclusivement.
Simple.
Encore
c'est
plus
délicieux,
ça.
C'est hyper croustillant.
Wow. Les deux écoles sont bonnes, hein.
Oui, mais disons
oui,
que pour se lancer,
oui,
il est peut-être plus
après,
simple
c'est...
d'approche. Donc eau, farine et un petit peu de sel.
Mais c'est pas si évident que ça.
Non. Guillaume de
Tonquédec,
ouais.
Elle semble plus simple. Par contre, elle a moins de liant, donc elle est un peu plus délicate à tourner.
Ah oui.
Moi, je trouve ça très compliqué, le sarrasin à faire.
Bon, mais en tout cas, c'est une aventure à tester. Sinon, on file tous à Dinard. Vous êtes ouverts aujourd'hui?
Oui, bien sûr.
Voilà,
bien
chez sûr, Maître Sarrasin, emmené par Rodolphe Brérel. Il est accolable sur le sujet, donc posez-lui toutes les questions.
Oh, bah oui,
et sinon, vous investissez dans un petit biligue avec la roselle, le petit râteau. Et vous testez, ouais. Là, on a encore quelques jours de congé.
Bah oui, alors
on devient le roi de la galette.
Mais évidemment qu'on devient le roi de la galette et les reines de la galette. Merci beaucoup, Rodolphe Brérel, d'avoir été en direct avec nous. Allô? Oui. Vous nous gardez, on vous entend plus, mais de très très loin, vous nous gardez 4 places. Hein, c'est chez Maître Sarrasin.
Non, mais il y a toute la France qui débarque.
Bah
là,
oui,
dans
cette magnifique ville de Dinard. Et vous, auditeurs, quelles sont les saveurs de votre enfance, de votre région natale ou de votre région d'adoption? Vous pouvez nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Avec un petit œuf brouillé au-dessus, un petit
peu
de jambon.
Ah là là, c'est vrai ça. Et alors, Sophie Moons, il y a eu une réalisation qui nous a été envoyée tout à l'heure par Sylvie, c'était votre tarte tatin. Vous en pensez quoi de la réalisation? Est-ce qu'on peut en dire un petit mot?
Comme ça, de visu, je dirais à Sylvie, si je ne me trompe pas de son prénom, il faudrait juste un petit peu plus cuire la pâte.
D'accord.
Un chouïa.
Sinon, la réalisation était plutôt pas trop mal.
C'était nickel.
Bon,
nickel,
très, très bien.
Sylvie, bravo. Bienvenue au club des tomatiers assumés.
Vous en faites des crêpes, Guillaume de Tonquédec, ou vous contentez de les manger, vous?
Non. J'en fais, ouais. Des crêpes, oui. Mais des galettes, non, c'est très difficile à réussir une galette. Ouais, avec juste du blé noir, de l'eau et un peu de sel. Une fois qu'on a fait la pâte, après, il faut réussir
à faire
sa galette. C'est pas du tout évident. Il faut la laisser un peu reposer. Je connais pas exactement le secret, pour être honnête.
Mais il y a même des écoles qui forment les maîtres.
Mais il faut avoir un certain tour de main.
Oui. Mais enfin, voilà, on peut s'y mettre. Il faut quelques tests et puis voilà, un peu de patience.
On n'a pas parlé de sucré, mais caramel, chocolat, évidemment, quoi.
Je connaissais une crêpière qui, pour gagner du temps, prenait la galette dans son assiette et la jetait par-dessus son épaule et la serveuse l'attrapait derrière pour gagner du temps en service.
Excellent.
Marie Hamon, elle s'appelait cette dame, c'est une crêperie à Perros-Guirec qui n'existe plus malheureusement.
Incroyable.
Elle avait fait sa réputation notamment sur ça. Elle avait reçu tous les grands de ce monde, dont Pompidou.
Génial.
Donc la recette de la Pompidou, elle l'avait appelée, c'était sarrasin, œuf, jambon, fromage, oignon. Voilà ce que mangeait le président Pompidou chez elle.
Ah,
voilà.
Très bien, on saura tout ce matin.
Histoire.
Je vous propose maintenant de partir à la découverte de 3 nouvelles destinations. Et quelque chose me dit qu'on va rester un petit peu encore en Bretagne, grâce à Sophie Massieu. À tout de suite sur Europe 1.
Le club de l'été, 2 heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Le Club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1 et jusqu'à 11h avec notre invité, le comédien Guillaume de Tonquédec. Est-ce que vous avez un lieu de prédilection à part la Bretagne pour partir en vacances ou c'est que Bretagne dès que vous avez un petit moment ?
Non, je pars aussi dans d'autres endroits. Quoi. Il faut... Mais c'est vrai qu'en Bretagne, à la limite, je connais mieux Pérouse-Guirec-Trégastel, la côte de Granit-Rose, que le reste de la Bretagne, parce que comme j'y ai un bateau, c'est là que je viens.
Et vous avez une adresse où vous achetez Sophie vos galettes Mons.
Ah, il faut alors, nous la donner, là. Crêpes, le tas de crêpes à Trégastel, on peut commander ses galettes et ses crêpes. Et puis, la première chose que je fais quand j'arrive à Pérouse-Guirec, je vais à la crêperie Les Vieux Gréments. Voilà, qui est un endroit super où elles sont absolument délicieuses.
Oh là là, ça donne tellement faim, en fait. En vrai. On n'arrête pas de parler de
crêpes.
Je prends toujours
la même chose. J'ai même créé une crêpe. Il faisait la crêpe, donc caramel au beurre salé en glace avec caramel au beurre salé liquide dessus. Je lui ai dit, non, mettez une glace vanille et le caramel au beurre salé. Dedans, ce sera mieux. Et du coup, ils ont appelé ça la Tonquédec.
Ah, ils ont appelé ça la Tonquédec, c'est une glace.
J'ai mangé ça en cette crêpe.
J'adorerais avoir une crêpe à mon nom, moi aussi. Ouais, bon, ouais. Bref.
En plus, ça sonne bien après ça, comme galette. Ah ouais.
Sophie Massieu, vous nous proposez tous les jours de découvrir trois lieux sur une même thématique. Alors aujourd'hui, c'est décidé, on part carrément au bout du monde.
Hein. Oh, mais absolument.
Voilà.
Mais bon, trois bouts du monde qui se situent en France métropolitaine, pour cette fois-ci. On commence à tout seigneur, tout honneur, par le bout du monde qui porte le festival du même nom, forcément. La Pointe du Raz. Alors oui, le festival est terminé pour cette année, mais d'abord, il y en aura l'année prochaine. Et ensuite, malgré tout, dès aujourd'hui, il reste beaucoup de choses à découvrir sur ce promontoire rocheux, granitique évidemment. Hein. On est dans le Finistère, on est à l'ouest de la commune de Plogoff et on surplombe la mer d'Iroise dont on a parlé il y a quelques temps à plus de 70 mètres de haut. Et on peut voir les pêcheurs à la ligne de l'île de Saint qui n'est pas si loin. Et puis on a aussi des oiseaux qui viennent nicher dans les falaises. Alors pour le découvrir, ce bout du monde, absolument, on peut se promener seul, notamment sur le GR 34, qui est un chemin de grande randonnée, hein, qui fait tout le tour de la Bretagne, notamment si on est un bon randonneur. Et puis, si on est un marcheur plutôt occasionnel, il y a aussi des PR, des plus petits chemins de randonnée. L'été, des promenades et des randonnées collectives sont aussi proposées pour les moins aventuriers ou pour ceux qui ont envie de partager ça avec des gens. Comme Raconte-moi la Pointe du Raz, Raz et Raz, compte-moi les comptes. Une balade d'1h30 qui peut se faire en famille et qui est aussi, et c'est à noter parce que c'est pas si souvent le cas, accessible aux personnes à mobilité réduite. Les prochaines dates pour cette balade collective, bah c'est ce dimanche, ça tombe bien.
Oui.
Ce sera à 15h30 et puis sinon il y en aura aussi lundi et mercredi 26 et 28 à 14h. Ça coûte 4€. C'est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
C'est presque gratuit même pour les adultes. Oui, 4€, voilà. C'est rien.
Alors, plus sportif, il y a aussi proposé, parmi les randonnées collectives, une randonnée de 2h sur le GR34. La prochaine, elle est prévue mardi 27 à 14h. Là, donc, c'est 2h de marche, mais surtout sur des sentiers un peu plus escarpés. Ça coûte 6€. Je ne sais pas si c'est parce qu'il faut payer plus cher pour avoir l'honneur.
Pour la sécurité
de...
ou
je ne sais pas. Bon, c'est peut-être pour l'admirer de plus. Autre façon de se faire plaisir sur la Pointe du Raz, dès ce soir, pourquoi pas, à 17h30, aller écouter un groupe local, la Misaine. Alors, je suis désolée, j'ai cherché un extrait pour essayer de vous faire découvrir. J'ai pas trouvé.
Ah,
voilà. Et sinon, on peut aussi assister ce soir toujours à une séance de cinéma prévue en plein air à 22h et au programme notamment un court-métrage sur deux collégiens de l'île voisine de Saint. Le titre, Notre caillou est un royaume, rien que le titre.
Non,
j'ai pas vu le court-métrage, pardonnez-moi, mais rien que le titre m'a complètement touché.
Ouais. Ouais, ça donne envie de partir. Alors, en allant à notre deuxième point de rendez-vous, Sophie, on pourrait presque gagner l'Angleterre à la nage, carrément. Quoi.
Oui, bon, alors il faut quand même être... plutôt un bon nageur, hein, parce qu'elle se trouve à 28 km à la Grande-Bretagne de ce cap Griné. Mais enfin, c'est
faisable,
il y en a qui le font. Moi non plus, mais il y en a qui le font. Donc je vous emmène sur le cap Griné, vous faire décoiffer, parce que alors là, pour y être allé un paquet de fois, je vous garantis qu'il y a du vent. Nous sommes donc sur la côte d'Opale, sur la commune d'Odingen, à une quinzaine de kilomètres au nord de Boulogne-sur-Mer. Cette fois, les falaises, elles ne sont plus du tout en granit, mais en argile. Et comme pour la Pointe du Raz, les très 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 nombreux visiteurs qui se comptent en 10 de milliers contribuent largement à l'érosion de ce site qui pourtant est bien sûr est protégé. Les amateurs de randonnée là-bas, ils ont à leur disposition le GR 120, et les autres peuvent se montrer un peu contemplatifs s'ils veulent notamment observer les oiseaux. Il y a beaucoup de passages d'oiseaux migrateurs
c'était pas un oiseau migrateur ça.
Non. Non. C'est aussi, vous le savez, un des détroits les plus fréquentés par les bateaux et les navires. Jour et nuit, sans arrêt, c'est un balai incessant. On compte, dit-on, 220 000 navires par an.
220 000, ah oui, carrément.
C'est énorme. J'ai pas fait le compte par jour, je sais pas calculer aussi vite que ça.
Oui,
j'aurais
non,
dû le faire
plus.
Avant, mais j'ai pas pensé.
Le dernier bout du monde choisi se trouve sur une île.
Eh ben oui, celle d'Oléron, je vous ai pas encore emmené cet été. C'est sa pointe sud. Pas de roche cette fois, c'est un cap sablonneux. On peut donc pratiquer la pêche à pied ou se baigner. Mais alors attention, en prenant vraiment des grosses précautions parce que les courants sont forts. Ah. Et puis il y a aussi des baïnes. Vous savez ce que c'est les baïnes ?
Ces espèces de sables mouvants, ça peut bien. Il y a aussi des fosses, enfin bref, c'est vraiment le paradis.
Oui,
quoi,
c'est ça. Voilà. Faut faire gaffe.
Et, voilà. Un paradis qui s'érode lui aussi sous l'effet des vagues, ce qui ne pourra que s'accentuer avec le réchauffement climatique qui cause une montée des eaux. C'était mon couplet écologique, mais vraiment j'y tiens. Faisons attention à notre petite planète qui a besoin qu'on la préserve un peu.
Vous avez bien fait, Sophie Massieu. Alors, quant à l'application du jour, elle est un tantinet paradoxal quand même.
Ah, pas faux. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je vous en parle plutôt à la fin de notre club de l'été, pour pas qu'on se rue dessus. Elle s'appelle Hidden Place. Sa promesse, c'est de vous emmener visiter des sites dans plusieurs pays du monde qui sortent un peu des sentiers battus et qui ne seraient pas envahis par les touristes. Alors forcément, si on est trop nombreux à la télécharger, ça marchera plus.
Bah, ça marchera plus, sera plus caché. Bon.
Elle est gratuite.
C'est déjà ça. Merci beaucoup, Sophie Massieu. Bon, alors Guillaume de Tonquédec, vous choisissez Oléron, Grinet ou la Pointe du Raz?
Je connais pas Oléron, j'y ai toujours jamais allé, il serait temps.
Ah
donc,
oui, bah
pourquoi
oui.
pas Oléron, ouais.
Ce serait bien.
Allez, tout ça, Oléron.
La Pointe du Raz, c'est génial. C'est des endroits merveilleux.
Oui, tout à fait.
On merveilleux, va tous... même dans le sens des contes, etc. Quoi. C'est super.
Bon, oui, mais oui, d'où le raconte-moi. Enfin, c'est, voilà, les contes et légendes de Bretagne sont légion.
Et vous retrouvez évidemment toutes les références des contenus dont on vous parle dans le Club de l'été sur le site d'Europe 1. Et s'il vous manque une information, vous n'hésitez pas, vous le savez, vous nous écrivez sur Twitter, hashtag Europe 1, vous pouvez interpeller Sophie Moon, Sophie Massieu ou même moi, on vous répond en général. Dans quelques minutes avec Sophie Moon, on continue notre saga consacrée aux pâtes. Et avant ça, on écoute une chanson qui devrait vous parler, Guillaume de Tonquédec. Europe 1 présente Les Petites Canailles qui chantent Salut les copains, les plus grands tubes de la génération Salut les copains, interprétés par la génération The Voice. Et on écoute Fais pas ci, fais pas ça.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1, Lise Pressac.
Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi, mange ta soupe. Allez, brosse-toi les dents, touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman.
Fais pas ci, fais pas ça, dada, poupou de cadet, à cheval sur mon bidet, mets pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux ou la bouche, mange pas tes ongles, vilain, va te laver les mains, ne traverse pas la rue, sinon prends pas tu tues.
Fais pas ci, fais pas ça, dada, poupou de cadet, à cheval sur mon bidet, laisse ton père travailler, viens donc faire la vaisselle, arrête de te chamailler, réponds quand tu t'appelles, sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place.
Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, au toit de là, prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit.
Fais pas ci, fais pas ça, arrête à ta boucle, des arches bâtons, des têtes de mute, têtes de bois, tu vas recevoir une peine. Qu'est-ce que t'as fait de mon peine, je ne le dirai pas deux fois, tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras balayeur.
Fais pas ci, fais pas ça.
C'était Les Petites Canailles avec Fais pas ci, fais pas ça sur Europe 1, chanson que vous avez dû apprendre, Guillaume de Tonquédec, et c'est pas facile à retenir les paroles de cette chanson.
Impossible à retenir parce qu'il n'y a pas de suite logique. Il y a quelques accroches, mais après, il faut se lancer dedans. Et en plus, Dutronc va particulièrement vite, il enchaîne les idées, donc il n'y a pas le temps de réfléchir. Quoi. Il faut vraiment le savoir. Très difficile à apprendre. On s'était bien amusé à essayer de le faire en générique avec Pascal Chaumet, qui a réalisé les premiers épisodes de la série.
Mais très difficile, donc on se retrouve dans un instant pour la suite du Club de l'été.
9h, 11h,
le club de l'été sur Europe 1.
Je suis disciplinée, moi, tu sais.
Laisse-moi rire.
J'ai fait sauter un disque, voilà. J'ai piraté la prog. On va le faire, ce putsch musical. Faut leur dire, c'est nawak leur truc. Aujourd'hui, si j'en en retard, qu'ils viennent pas me chercher.
Quoi qu'il advienne, n'oublie jamais ce mot. Discipline.
Lise Pressac.
Heureusement, le club de l'été s'arrête demain. Je vais finir par avoir des problèmes.
Faut vous mettre
dehors. Le club de l'été se poursuit avec notre invité, le comédien Guillaume de Tonquédec. Est-ce que vous cuisinez?
J'adore ça.
Alors, qu'est-ce que vous nous préparez si on vient chez vous dîner?
Ça pourrait être un poulet, par exemple, aux pommes de terre. Extrêmement simple, c'est-à-dire qu'on met son poulet. Bon, il faut un bon poulet. Hein.
Ah, toujours là, les bons produits.
Et puis, vous mettez des pommes de terre autour, mais dans le même plat. Vous pouvez mettre un yaourt dans le poulet aussi, avec des herbes de votre jardin, si vous avez un jardin, sinon vous en prenez.
Très bonne idée.
et vous faites cuire ça ensemble, et donc le jus du poulet va dans les pommes de terre. Oh là là, j'ai faim, il est 11h moins le quart.
Mais c'est généralement on a faim à partir de 10h.
Et alors le truc, vous mettez une belle belle couche de beurre
salé
breton là au-dessus.
Moi je mets le beurre plutôt après pour pas qu'il cuise, pour pas qu'il soit mauvais pour la santé.
Non mais en fait le truc c'est vous lancez le poulet à 100 degrés et puis vous le faites bien croustiller.
Ah d'accord.
Ça c'est les trucs de grand chef.
Et en dessert vous nous faites quoi Guillaume de Tonquédec?
En dessert, oh là, j'aime tellement aller un vacherin. Oh
là là.
À la meringue, à la glace. Vous pouvez faire votre glace vous-même, c'est génial.
Vous la faites vous-même?
C'est très compliqué. Ouais, c'est possible. J'ai acheté un appareil qui permet de faire sa glace soi-même.
Et en plus, il faut s'équiper. Bon, avec Sophie Moons, toute la semaine, on parle de pâtes. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Sophie?
Les pâtes au pesto.
Ah.
Moi, j'étais une balle.
Pesto.
Ouais.
Panzani, pesto.
Vous allez me fâcher, la Loïc. C'est moi, cette douleur.
Non, mais on a cherché très longtemps une chanson.
J'ai été balader, j'ai fait ça durant cette semaine parisienne dans vos supermarchés. Je suis ébahie de voir les rayons de pots de sauce pesto.
Vous n'en avez pas autant en Belgique, si.
Mais alors, vous, c'est particulièrement vrai. Et le comble, c'est que vous achetez. Mais il ne faut pas faire ça.
Mais non,
nous disputez pas.
Rassurez-vous, Sophie.
Techniquement, si vous faites travailler vos papilles, je vous jure que pour trouver un bon pot de pesto, mais il faut courir, c'est pas bon, quoi. Nous, en Belgique, on s'est amusé à tester des pots de pesto qu'on a aussi chez vous. Et en fait, on a frôlé le burn-out après l'émission. Hein. C'est pas bon et en plus, ça coûte cher.
Mais nous disputez pas, Sophie. On
vous êtes d'accord
pas.
Avec moi, Guillaume?
Mais moi, comment faire du pesto? Parce
alors,
que c'est ça le problème.
Alors, c'est une recette, c'est une sauce iconique en Italie, originaire de Gênes, la capitale de Ligurie. Et là, on est vraiment, vous savez, les puristes du pesto. Là-bas, on utilise des ingrédients locaux quand on le peut. Le basilic de Prat, c'est un quartier de Gênes. L'ail de Vesalico, qui est un ail très doux, très aromatique. On a le pecorino local. Enfin voilà, il y a vraiment une vraie culture du produit local. Mais ce qu'on va faire, en ce qui nous concerne, on va juste travailler sur quelques ingrédients qu'on tous dans nos magasins, dans nos supermarchés. Du basilic, jusque-là,
ça,
pas trop compliqué.
Jusque-là, tout va bien quand même. Oui.
Il va vous falloir du parmesan ou du pecorino. Vous pouvez faire les deux. Donc pecorino, je rappelle que c'est avec du fromage de brebis. Le parmesan est incontournable. Non râpé, vous râpez vous-même.
Oui.
Dans la recette originale, on utilise le pignon de pin.
Ah, c'est trop
bon. Mais qui est quand même assez cher, il faut quand même le reconnaître. Donc, soit vous trouvez des pignons, vous avez un petit budget, c'est quand même 7 euros la petite boîte.
Pourquoi c'est si cher le...
C'est rare.
Ouais.
C'est rare. Et puis souvent, c'est des pignons importés de l'autre bout du monde, donc au niveau du goût, c'est pas dingue. Ils ont un petit peu le goût du rance parfois.
Puis de la facture carbone.
Ouais, en plus. Donc, voilà. En plus. Alors, si vous n'avez pas ça, vous faites au plus simple. Noisettes et cerneaux de noix. C'est facile. Une bonne huile d'olive extra vierge, on en a parlé la semaine dernière. Et de l'ail.
Beaucoup ?
Non, justement, il ne faut pas trop en mettre parce que l'idée, ce n'est pas d'atomiser tout ça. Le truc aussi, c'est qu'on ne va pas utiliser le mixeur pour faire le pesto. Pourquoi ? Parce que la lame va abîmer les arômes, brûler, si vous voulez, le basilic, et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, il faut un petit investissement, c'est le mortier. On en trouve aujourd'hui partout en supermarché. Il y a le grand géant suédois qui en vend pas cher. Et ils sont pas mal en plus. Non, mais je le dis,
pour une fois,
ils sont bien,
il faut
pas
le saluer.
Cher, ils font le job. Donc, vous allez prendre dans votre mortier, vous allez mettre votre belle botte de basilic. Pour une belle botte de basilic standard, vous allez mettre une gousse d'ail.
D'accord.
Ok. Mm-hmm. Vous allez commencer à taper pestare en italien, donc c'est-à-dire avec le mortier, il s'agit d'écraser le basilic et l'ail. Vous allez rajouter progressivement l'huile d'olive. Mm-hmm. Hein, vous voyez, ça doit faire une belle émulsion. Et vous ajoutez vos cerneaux de noix, de noisettes, et vous concassez tout cela. Sur le long travail, il s'agit pas de casser le produit, il s'agit de tourner en fait avec le mortier. Vous voyez, c'est un très joli mouvement du
poignet.
Du poignet.
Vous pouvez voir Sophie Mousse qui vient avec son mortier sur le
point de fer. On fait pas comme ça.
Pas comme une brute, quoi.
Voilà, on tourne, on parle au pesto, vous voyez.
On lui dit
c'est
quoi?
C'est un travail d'une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. Mais c'est ça qui va faire que votre pesto va prendre une jolie texture et puis surtout va garder tous ses arômes. D'accord? On sale. On poivre et on rajoute évidemment le fameux parmesan râpé. Il n'y a pas d'ingrédients et de dosage. L'idée, c'est de faire selon votre goût. Le truc, c'est le doigt, le mortier, on plonge le doigt dedans et on goûte. C'est ça le truc quand on veut s'en servir dans la cuisine. Après, vous faites vos pâtes, vous les mettez dans de l'eau. vous les mettez dans de l'eau, vous avez votre pesto, vous égouttez les pâtes, mais pas trop, et vous gardez toujours, je l'ai expliqué
toujours
hier,
un peu d'eau de cuisson.
L'eau de cuisson dans un petit bol sur le côté, très riche en amidon. Vous allez mettre le pesto dans les pâtes, vous allez bien bien mélanger, et vous rajoutez un petit peu d'eau de cuisson, ça va permettre de faire un joli liant. Vous mettez encore un petit peu de parmesan, vous mettez un peu de poivre, un peu de sel.
Mais arrêtez,
et vous
avez un affreux, plat j'ai une faim d'ogre.
Simplissime. Bon, juste après, il ne faut pas avoir un baiser langoureux avec sa partenaire sur scène, mais...
Sauf si elle a mangé le même plat
que vous. Voilà, oui, si vous mangez la même chose.
Mais voilà, donc vous voyez, c'est économique, facile, facile. Et voilà, la vie est belle.
Oh là là.
Voilà, il n'y a plus qu'à.
Valérie Bonneton.
Il est mythique, ce à table.
Ah oui, mythique. C'était une des scènes du premier épisode. Et là, c'est tellement drôle que moi, j'ai proposé à Guillaume Monnouille, le producteur, je lui ai dit, mais il faudrait que tu le mettes en gimmick dans le générique, ça pourrait être super. Et en effet, rien que le générique, à chaque fois, pourtant je le connais, j'explose de rire à chaque fois que j'entends. Il faut dire que Valérie est particulièrement exceptionnelle.
Mais alors, c'est le même à table au début, à la fin du générique. Moi, j'avais
c'est
l'impression que celui de la fin, il était plus intense. Alors, est-ce que
du coup, c'est parce que vous avez vu l'épisode et vous avez été imprégné.
Oui, c'est
mais,
ça. Du coup,
c'est le même.
Du coup, c'est impressionnant. Merci beaucoup, Sophie Moons. Grâce à vous, on sait faire des bonnes pâtes au pesto. Et si vous testez les recettes de Sophie, évidemment, vous nous envoyez vos créations sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Si vous avez des questions techniques même, vous n'hésitez pas, elle se fera un plaisir d'y répondre. Guillaume de Tonquédec, merci beaucoup d'avoir passé ces deux heures en notre compagnie. Je rappelle que vous serez à l'affiche de 7 ans de réflexion au Théâtre des Bouffes Parisiens à partir du 17 septembre jusqu'au 5 janvier 2020 avec Alice Dufour, Agathe Drone, Jacques Fontanel, François Burlou, Clément
Coche.
Pardon.
Merci de les citer, c'est sympa.
Bah ouais, non, mais c'est normal, bien, vous êtes nombreux sur scène. C'est mis en scène par Stéphane Hillel. Vous êtes en pleine répétition là en ce moment, ça promet ?
On est en pleine répétition et le problème qu'on a avec Alice et mes copains, c'est d'essayer de lutter contre les fous rires parce que c'est vraiment très, 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 très drôle. Donc, puis c'est la classe de ces comédies américaines de ces années-là, c'est vraiment un charme fou, quoi.
Donc là, on lutte pour le... On sera prêt pour le 17
septembre. On sera prêt pour
le 17 septembre.
Soutenir,
on va se tenir. Vous serez également au Festival d'Angoulême ce week-end pour deux films, Place des Victoires de Johan Guillouzouik. Je me suis relancée et j'ai réussi. L'esprit de famille de Éric Bénard. Merci encore d'avoir passé ces deux heures avec nous. Sophie Massieu, Sophie Moons. On se retrouve demain pour notre dernière émission de l'été.
Ça va être
trop triste. On va prendre notre boîte de mouchoirs avec notre invité Simone Hérault, la voix officielle de la SNCF que vous avez entendu tout votre été dans les gares. Nous irons dans le Perche. Je vous laisse en compagnie d'Anne Roumanoff. Très bonne journée à l'écoute d'Europe 1.